Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue. Chers amis, comment ça va? Ça fait longtemps? Bienvenue? Ça fait longtemps? Ouais, non, ça fait deux jours. Ça fait deux jours. Non, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien dans la période qui n'est pas facile. L'ambiance est assez irrespirable. Suite à la mort de Quentin Derenck, là, c'est. La semaine est compliquée. Et j'ai vu que les médias de la presse papier étaient déjà avaient déjà commencé à passer à autre chose. Hop. Et j'ai écouté Coxy toute la journée. Oh, terrible. Terrible, terrible. Ça sent le brin de partout. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Est-ce que le contexte politique ressemble plus au début ou à la fin des années 30? On va demander à Johan Chapoutot. Merci Souyani pour ton resub, merci beaucoup. Ça va passer à autre chose la semaine prochaine après la marche blanche de samedi. Ouais, samedi, donc demain à Lyon, aura lieu une marche blanche à la mémoire de Quentin Derenck, organisée par des proches des milieux d'extrême droite lyonnais. Notamment la compagne, la femme, pardon, l'épouse de l'un des leaders de l'extrême droite lyonnaise. Manifestation à haut risque et manifestation visiblement d'après les autorités qui va être très largement encadrée pour éviter tout débordement. Il y en a une organisée ici aussi à Brest. Ah ouais? Il y a d'autres villes dans lesquelles il y a des marches blanches, j'ai pas vu, c'est possible. Je suis lyonnaise, je suis pas très rassurée, je reste chez moi demain. À mon avis, rester en sécurité, oui. En ce qui me concerne, j'ai passé des coups de fil aux quelques Lyonnais que je connais pour savoir s'ils étaient en sécurité, si tout se passait bien, et ils ont tous l'intention effectivement de rester chez eux et de pas se mettre en danger. T'as pas envie d'être dans les gares, t'as pas envie d'être dans le métro en ce moment. Merci Ticlem. Je prenais un verre avec un ami militant LFI qui a dit « c'est sa faute s'il est mort ». Ouais. Oui. Merci Ryan Hunt, merci. Devait y avoir Bruxelles hier, mais ça a été annulé, rassemblement de l'extrême droite nationaliste flamande. Mais rassemblement qui était prévu en lien avec Quentin Derenck ? Ou c'était une manif qui était déjà prévue ? Je sais pas. Ça prend des proportions terribles. Ah oui, ça prend des proportions. Au début, enfin, moi je me souviens au début, les premiers jours, je me disais que c'était un peu galvaudé de parler de Charlie Kirk en disant qu'on était en train de vivre un événement en France similaire à ce que les États-Unis ont connu avec l'assassinat de Charlie Kirk. Là, clairement, je révise mon jugement. Hein. Je pense qu'on est dans un niveau. Dans un niveau assez similaire, prise de parole du président de la République, interpellation aux questions au gouvernement, une des journaux télévisés, etc. Les proportions sont assez impressionnantes. Et le niveau de pression qui est mis sur la gauche, et notamment sur la France insoumise, est absolument énorme. Enfin, la France insoumise, il y a eu une dizaine, je ne sais plus, mais de permanences parlementaires qui ont été dégradées. Le siège de la France Insoumise a été aspergé de peinture rouge, puis il y a eu une alerte à la bombe, il a fallu évacuer le bâtiment. C'est particulièrement tendu en ce moment, y compris pour les Insoumis, quoi. Nuit de cristal, non, nuit de cristal, non. Non, puis en plus, nuit de cristal, c'est un très très mauvais terme pour désigner ce qu'a été le pogrom. J'ai oublié la date exacte de la nuit de cristal. Enfin, c'est un massacre organisé de populations juives. C'est ce qui s'est passé. J'espère qu'on n'en revient pas aux années de plomb non plus. Non. Les années de plomb, c'était en Allemagne dans les années 70, quand il y avait, quand il y avait de la lutte à main armée, de la lutte politique à main armée de la part de l'extrême gauche, de certains groupuscules d'extrême gauche. Vous avez déjà entendu parler de la bande à Bader, vous avez déjà entendu parler d'un certain nombre d'organisations comme ça qui faisaient des assassinats. En Italie aussi, oui, la fraction armée rouge, merci, la fraction armée rouge, bien sûr. En Italie aussi, les années de plomb, bien sûr. En France, il y avait Action Directe. Je comprends pas l'autorisation de la manifestation des néo-nazis d'Europe demain. C'est quoi la ligne rouge s'il y en a une? J'en sais rien. Je suis pas du tout le préfet du Rhône. Je pense que la préfecture du Rhône a dû faire un choix en se disant que soit ils autorisent la manifestation et ils se donnent les moyens de l'encadrer, soit ils l'interdisent et ils se placent d'eux-mêmes devant le risque d'avoir une manifestation sauvage qui s'organise malgré l'interdiction et qui n'est pas encadrée et qui risque de dégénérer. Je pense que voilà, je pense que les arbitrages se font autour de de ce double enjeu, quoi. Une manifestation, ça s'interdit plutôt que ça ne s'autorise. Oui, tu as raison. Non, non, tu as raison. Il n'existe pas de régime d'autorisation des manifestations. Le droit de manifester en France, le régime qui s'applique, c'est le régime de la déclaration préalable. Vous êtes libre de manifester par principe et par défaut. Une manifestation n'a pas à être autorisée. En revanche, une manifestation peut être interdite. C'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas à prononcer, il n'y a pas à attendre des autorités qu'elles prononcent une autorisation pour pouvoir manifester librement. Par contre, les autorités peuvent prononcer une interdiction, auquel cas c'est un délit que de participer à la manifestation qui a été interdite. Merci, les Tozered. Bienvenue dans le droit public, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le droit public, les régimes de déclaration préalable, d'autorisation préalable, etc. Merci Sly, merci. Tu dis juste, moi et mes potes, on va manifester tel jour à tel endroit. Ouais. Ouais. Une déclaration sur la voie publique doit faire l'objet d'une déclaration. Et cette déclaration peut faire l'objet d'un refus, enfin d'une interdiction prononcée par la préfecture, interdiction qui doit être manifestée, qui doit être, pardon, justifiée, c'est-à-dire que le préfet doit dire pourquoi il interdit la manifestation, et vous avez le droit d'attaquer en justice la décision d'interdiction. Et le tribunal administratif peut vous donner raison. Merci, Led Zeppelin. On a plein d'exemples, on a plein d'exemples de manifs qui ont été interdites, puis le juge administratif a annulé l'interdiction en disant les justifications apportées par la préfecture ne sont pas suffisantes. Donc la manif est autorisée. Il faut définir le trajet de la manif. Ouais, faut définir. Alors, soit c'est un rassemblement sur un lieu précis, sur une place précise, soit c'est un défilé. Et là, il faut expliquer. Donc, quand tu déclares ta manifestation, quel est le projet de trajet que tu as. Et les services de la préfecture sont en dialogue avec les organisateurs de la manifestation et peuvent leur suggérer d'autres trajets alternatifs. Ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, pour des raisons de conflit de manifestation. Genre, si tu déclares une manif en disant on va passer par le boulevard A, B et C, et que la préfecture te répond, ah non, mais attention, parce que sur le boulevard B, ce jour-là, il y a, je sais pas, une compétition sportive, un marathon caritatif, il y a une brocante, enfin, je sais pas. Bon, bah voilà, là, la préfecture, elle dit, attention, non, 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 le boulevard, là, ce jour-là, non, 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 c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut vous proposer, c'est plutôt de faire ça, ou alors ça, qu'est-ce que vous en pensez? On peut en discuter, machin et tout. Donc tout ça s'organise intelligemment, mais voilà, quoi. S'ils disent interdit pour risque de trouble à l'ordre public, la veille de la manif, elle sera interdite même si on gagne le recours. Ça dépend quand le recours est prononcé. Et sur le risque de trouble à l'ordre public, il faut que ce soit justifié. Il faut que ce soit justifié par la préfecture. La préfecture doit expliquer en quoi il y a un risque pour l'ordre public. Une manif qui ne trouble pas l'ordre public, c'est pas une bonne manif. Alors, c'est... le monde n'est pas noir et blanc. Le monde n'est pas noir et blanc. Il n'y a pas la gentille manif et la méchante manif. Il y a des niveaux de troubles possibles pour une manifestation. Le fait d'être nombreux et d'être bruyant, c'est pas un trouble à l'ordre public. C'est le fait de faire une manifestation. Il y a pas de souci. Le fait qu'il y ait des dégradations de biens ou des atteintes aux personnes, ça, potentiellement, c'est un trouble à l'ordre public qui va être jugé inacceptable par la préfecture. Je me demande à quel point les orgas vont être capables de maîtriser cette marche. Si ça se passe calmement, ils en sortent renforcés. Si ça part en émeute ou en confrontation violente avec la police, le narratif va en prendre un sacré coup. Je suis d'accord avec toi. Merci Tarkaïm. Je suis d'accord avec toi. C'est tout l'intérêt pour l'extrême droite que cette manifestation samedi se déroule le plus calmement possible pour faire une démonstration de force par le nombre, mais sûrement pas une démonstration de force par la violence. Ça, à mon avis, ça porterait atteinte à leur image. Là, dans le moment politique qu'on est en train de vivre, leur intérêt, c'est que ça se passe le mieux possible. Malheureusement pour la gauche, l'extrême droite sait se discipliner sur ce genre de choses. Pas toujours, hein. Il est possible qu'il y ait des heurts en marge de la manifestation, en amont ou en aval de la manifestation. Enfin, de la même manière que la mort de Quentin Derenque s'est passée à plusieurs centaines de mètres du lieu où avait lieu l'événement qui était une conférence de Rima Hassan à l'université. Donc c'est vraiment en marge de l'événement que s'est déroulé le truc. Je comprends comment ils arrivent à manifester, puisqu'ils sont non-violents leur démarche, mais leur message violent n'est pas un trouble à l'ordre public. Non. Non, un message violent n'est pas un trouble à l'ordre public. Pas suffisant, en tout cas, faut le qualifier. Franchement, inviter Rima dans une université à Lyon, ça ne pouvait qu'à vous dire un drame, malheureusement. Bah, t'es marrant. On va pas empêcher de tenir des conférences dans les universités sous prétexte qu'il y a des fachos. Merci, Tanky Burn. Ou des antifas, enfin, peu importe. Tu vois, c'est un peu le problème, c'est que la vie démocratique ne peut pas s'arrêter sous prétexte que il y a des risques que des personnes en marge de l'événement fassent n'importe quoi. Sinon, on ferait plus aucune manifestation, jamais. Parce que le risque zéro n'existe pas. Je sais bien, mais c'était trop prévisible. Non, enfin je suis désolé, non. Merci Aline Edis. Rima Hassan, elle fait des conférences tout le temps. Voilà, elle fait des conférences dans des facs, elle fait des conférences dans des salles de concert, dans des salles polyvalentes. Elle est une députée, une eurodéputée, qui a l'occasion de s'exprimer régulièrement sur plein de sujets, beaucoup sur le sujet de Gaza, évidemment. Mais voilà, c'est pas plus prévisible que ce soit elle plutôt qu'ailleurs, quoi. Donc non, 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 on peut pas empêcher Rima Hassan de prendre la parole, quoi. Certainement pas. D'ailleurs, c'est des conférences rémunérées? Non, jamais. Savez, les gens de gauche, ils se font pas rémunérer pour dire des trucs de gauche, hein. De toute façon, il n'y a pas de fric à gauche. C'est pas ce genre de conférence-là. Si vous faites des conférences de développement personnel ou des conférences business, là, vous pouvez toucher un petit billet. Mais Rima Hassan, on lui propose jamais ça. La bonne parole se prêche gratuitement. Oui, c'est ça. La bonne parole se prêche gratuitement. Il n'y a pas d'argent à gauche. Non, il n'y a pas de fric à gauche. Ah, non, il n'y a vraiment pas de fric à gauche. Hein. Alors, certainement pas d'argent pour rémunérer les conférenciers. Merci, Marshmallow. Et les gens de gauche, ils ont déjà pas assez de fric pour réserver des salles. Ils demandent des salles gratos. Ils squattent des universités, ils vont dans des lieux où c'est pas cher. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, non, tu fais pas un meeting à la mutualité tous les mois. Hein. T'as juste pas les moyens, c'est hors de prix. Tu le fais pour les campagnes, parce que, histoire de dire, pour marquer le coup. Mais la réalité, c'est que le reste du temps, tu fais pas cher. Hein. Merci, Mélie Aibiche. Pourtant, tous les grands représentants de gauche ont les poches bien pleines. Si tu veux, si tu veux. Il faudrait faire des conférences business de gauche. Pas sûr de trouver son public cependant. Non, ouais, non, non, non. Ça marchera pas. Ça marchera pas du tout. Si c'était aussi cramé qu'il y aurait des problèmes en marge de la conférence, pourquoi il n'y a pas eu plus de forces de l'ordre? On a sous-estimé le risque, manque d'effectifs. Oui, évidemment. Enfin, je veux dire, enfin, c'est facile après coup de dire ah bah il manquait des flics dans le quartier. Bah oui, bah oui, de toute évidence, oui, il y a un mec qui est mort. Donc merci les Einstein de l'ordre public. C'est plus compliqué que ça dans la réalité. Puisque tu essayes de sécuriser l'entrée, tu essayes de sécuriser les abords de l'établissement, mais s'il se passe des trucs à plusieurs centaines de mètres, bah tu l'avais pas prévu, tu l'avais pas anticipé, et voilà. Donc c'est quoi la jauge exacte en fait? C'est quoi la jauge précise en termes de centaines de mètres de protection des conférences politiques, selon lequel critère, selon comment, etc. C'est vachement dur à anticiper ces choses-là. Donc maintenant qu'il y a un précédent, alors c'est sûr, maintenant qu'il y a un précédent, bah oui, forcément, à partir de maintenant, je vous l'annonce, hein, les conférences de Rima Hassan, bah va y avoir de la présence policière un peu plus renforcée. Voilà. Enfin. Encore une fois, hein, c'est très très facile de juger après coup. Hein. Très très facile. Extrêmement difficile avant. Moi, en ce qui me concerne, je suis en train d'organiser une conférence, pas une conférence, pardon, mais une émission Backseat qui aura lieu le 24 février à Toulon sur le thème de l'extrême droite, en partenariat avec Libération. Nous sommes en contact avec la préfecture, avec le commissariat, on est en train d'organiser les choses. Je suis incapable de vous dire quel est le niveau de sécurité nécessaire. Je sais pas. C'est très très difficile à anticiper. Donc on est en train de travailler là-dessus avec les services de libération, on est en train d'organiser tout ça, ça va bien se passer. Et voilà. Merci Mefcat. Est-ce que Némésis est ou sera suivi par le renseignement? Par définition, je sais pas. C'est ça les renseignements. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop du genre à l'annoncer publiquement. Merci Alenbic. Donc, j'en sais rien. Je ne sais pas si les services de renseignement surveillent Nemesis particulièrement. Je suppose qu'ils ont un œil. Je ne sais pas à quel point. J'en sais rien. Je ne sais pas. Pourquoi c'est à Toulon? Parce que c'est une émission sur le thème de l'extrême droite dans les élections municipales. Toulon est donc une ville tout indiquée pour parler de ce sujet, compte tenu de son histoire. C'est quoi son histoire? Alors, Toulon a été l'une des premières villes françaises à être dirigée par l'extrême droite. C'était dans les années 1990, et Toulon a été, voilà, ça a été une vitrine, une victoire de Jean-Marie Le Pen qui a réussi à diriger Toulon. Ensuite, la ville est rebasculée vers le centre droit, je crois, et là, en 2026, Toulon va très probablement rebasculer à l'extrême droite, au Rassemblement national. Toulon est l'une des villes où le RN est en meilleure posture pour obtenir une victoire symbolique et importante pour récupérer Toulon. Et donc on fait une émission spéciale à Toulon pour vous en parler, de Toulon un peu. On va surtout interviewer des personnalités de Toulon, des associatives, des gens qui militent contre l'extrême droite, des gens qui vont nous parler du tissu économique et social. Voilà. On fait une émission spéciale sur le thème de l'extrême droite dans les municipales, à l'occasion des municipales. Donc regardez cette émission. C'est pour vous qu'on l'a fait. Merci CG. Je suis en train de me radicaliser à gauche à cause des événements. Bah, c'est des, oui, c'est des événements qui appellent à des prises de position radicales, oui. Enfin, radical. Radicalement humaniste et radicalement démocrate. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelques articles de côté pour continuer à analyser l'actualité autour de la mort de Quentin de Ranque. Un article sur les socialistes, un article sur la Jeune Garde et la France Insoumise. J'ai un article d'Alexandre Devecchio dans le Figaro Magazine, une tribune très radicale contre la France Insoumise. Là, on est vraiment sur la création d'un cordon sanitaire anti-LFI, assez impressionnant. Hop. Mais avant ça, j'ai noté hier une prise de position de Dominique de Villepin, dis donc. Dominique de Villepin s'est exprimé sur son compte Instagram. Alors, il s'est probablement exprimé aussi sur son blog ou sur un autre site internet, j'en sais rien, mais moi, c'est la publication Insta que j'ai vue passer et que j'ai trouvée intéressante. Dominique de Villepin qui essaye de faire le tri dans ce qui est en train de se passer dans le moment politique qu'on vit et qui fait du de Villepin. Il fait du de Villepin. C'est-à-dire que c'est très verbeux, c'est très ampoulé. C'est vraiment le ton de Dominique de Villepin qu'on retrouve. Mais il dit des choses que je trouve intéressantes. Il remet la balle au centre. Ouais, d'un certain point de vue. On va regarder ça ensemble, on va le lire. On va le lire. Je vais essayer de vous faire ma meilleure imitation, Dominique de Villepin. Je suis nul en imitation, c'est Usul qui est fort là-dedans. Mais voilà, il tape très très fort sur la France Insoumise. Mais il tape aussi très très fort sur l'extrême droite. Ce qui ne veut pas dire qu'il met la balle au centre. Parce que justement, il essaye d'expliquer ça. Je suis conscient des risques que je prends à m'exprimer dans une période de si grande polarisation d'émotions et de passions politiques. Mais l'esprit de responsabilité exige l'engagement et la clarté. On criera parce que je compare l'extrême droite d'aujourd'hui à celle d'hier. Je ne dis pas qu'elle est la même. Je dis qu'il y a des filiations qui ne permettent pas de les distinguer radicalement. On criera que je me gauchise et je défends LFI. Je le redis, je n'ai aucune affinité ni aucun lien avec LFI. On criera que je fais la leçon à la gauche et que je me droitise. Qu'on crie. Merci Dadao. Je crois à la nécessité de dire certaines vérités, même quand elles nous dérangent. Parce que je ressens douloureusement le fait que l'obscurcissement. Waouh ! Elle a été compliquée celle-là, je la refais. Parce que je ressens douloureusement le fait que l'obscurcissement de ces vérités permet de maintenir l'illusion d'une vie démocratique normale quand elle ne l'est plus et risque de basculer. Et parce qu'à cet instant précis, l'enjeu n'est pas de gagner une séquence médiatique. L'enjeu est d'empêcher que la France, par fatigue, par calcul, par aveuglement, ne se réveille un jour en découvrant qu'elle a sanctuarisé le danger qu'elle prétendait conjurer. C'est pas facile à lire, le Dominique de Villepin. Il y a trop de mots, c'est chiant. Après, c'est Villepin, ça a toujours été comme ça. Mais je m'efforce. Quand le réel est compliqué, il faut prendre le temps de la réflexion, de la nuance, de la perspective. L'affaire Quentin Derenck nous place face à une telle obligation, celle de l'inconfort et de la vigilance. D'abord, il faut le dire sans détour, nous devons dénoncer toutes les violences, quelles qu'elles soient, et les dénoncer sans exception. Nous devons condamner la violence politique, toute violence politique, parce qu'elle n'a pas sa place dans une démocratie, sans exception. Une démocratie commence là où la force recule, là où la parole remplace le coup, là où l'adversaire demeure un citoyen. Et quand la violence surgit, quand elle s'organise, quand elle se justifie, elle ne frappe pas seulement les individus, elle atteint l'idée même de république. Nous devons aussi mesurer l'importance du moment où nous nous trouvons. C'est pour la France le moment de Charlie Kirk, qu'a vécu l'Amérique trumpienne il y a quelques mois avec l'assassinat de Charlie Kirk par un meurtrier se revendiquant de l'antifascisme. C'est un moment qui vise la délégitimation d'une partie du spectre politique et la victimisation de l'extrême droite triomphante. L'enjeu, c'est celui d'une prise de pouvoir sur les esprits, d'une prise de pouvoir sur les rues. Alors soyons vigilants. Ne cédons pas le terrain à l'extrême droite. Nous approchons, j'en suis convaincu, d'un point de non-retour. Quelque chose commence à nous échapper. Il y a un certain confort à rejeter dos à dos toutes les violences. Une conviction de se prémunir de tout risque d'avoir tort. Mais cela nous rapproche-t-il vraiment de la vérité ? On ne peut pas jouer avec la démocratie. Il y a quelque chose de troublant à voir dans le paysage politique de la gauche à la droite, en passant par la gauche. Chercher à tirer parti de la situation. L'extrême droite est la seule gagnante. Il est des moments où les calculs personnels doivent céder à la défense de l'essentiel, la démocratie. J'ai pas tout compris à ce qu'il a voulu dire, mais je l'ai, j'ai l'idée. En tout cas, ouais, le cynisme des camps politiques qui essaient de tirer leur couverture à eux, c'est chiant. Ensuite, il faut regarder en face ce qui, dans la stratégie et dans les réactions de LFI, nourrit le feu au lieu de l'éteindre, sans jamais confondre responsabilité politique et responsabilité pénale. La justice établira les faits, les rôles, les actes et les responsabilités individuelles. Mais la politique, elle, répond d'un climat, celui des mots, des postures, des ambiguïtés, des proximités tolérées, de la tentation de l'affrontement permanent. Il tape fort sur la France insoumise, hein, je vous l'avais dit. Dans une France divisée, fragilisée, travaillée par les peurs et les colères, jouée sans cesse sur la rupture, sur la ligne de front, sur la dramatisation, c'est prendre le risque de créer les conditions où des acteurs se sentiront autorisés à passer du verbe au geste. Et ce risque, quel que soit le camp, n'est pas théorique, il est désormais devant nous. Grosse responsabilité politique de la France insoumise dans ce qui se passe, d'après Dominique de Villepin. Sans confondre avec la responsabilité pénale. Je ne parle pas ici au nom d'un camp. Je parle au nom d'une certaine idée de la République. C'est tellement de Villepin. Je refuse toute querelle de chapelle, tout règlement de compte partisan. Mais j'affirme en ce moment si grave une exigence de responsabilité nationale de la part de toutes les formations politiques et de tous les responsables politiques. La France insoumise a aujourd'hui une responsabilité particulière, celle de ne pas surenchérir, de ne pas stériliser dans une posture défensive et belliqueuse une partie de l'électorat. La radicalité, lorsqu'elle devient un style, finit par devenir une mécanique. Et cette mécanique, tôt ou tard, échappe à ceux qui prétendent la conduire. Cela suppose pour LFI de clarifier ses positions, de tenir ses rangs, de rompre avec toute ambiguïté et de faire prévaloir le débat sur la mise en tension permanente. Cela suppose un discours réfléchi, profond et ouvert. Cela suppose aussi d'accepter l'inconfort, reconnaître qu'on a pu alimenter la tension, même sans vouloir la violence. Je pense qu'il en demande beaucoup à la France insoumise, mais on a l'idée. Je le dis avec force, parce que le basculement est possible. Il faut le dire sans détour. LFI fait tout autant le jeu du RN en s'arc-boutant sur sa rhétorique que certains responsables de gauche en acceptant de renvoyer dos à dos les violences. Et c'est ça la structure argumentative de Villepin, c'est d'expliquer que les gens qui renvoient dos à dos extrême droite et extrême gauche sont responsables de la montée de l'extrême droite. J'assume de déployer une leçon historique qui ne vaut pas comparaison. En 1933, sans l'intransigeance du Parti communiste allemand, aveuglé par sa stratégie classe contre classe, qui minimisait le risque fasciste, sans doute le Parti national-socialiste n'aurait pas pu arriver au pouvoir. C'est la peur du bolchevisme qui a poussé assez de modérés à se rallier, par réflexe, à ceux qui se présentaient comme le seul rempart. Éviter le privilège, cela suppose aujourd'hui pour LFI de tracer des limites nettes, de récuser toute complaisance pour la violence et de choisir la force du débat plutôt que la logique du choc. Cela suppose un discours réfléchi, profond et ouvert. Je le dis avec force parce que l'heure est grave. Attends quoi ? La première quoi ? J'ai ça que je comprends pas. Attends, c'est quoi le lien ? Bon, je continue à lire. La première, c'est celle de la symétrie des violences de la gauche et de la droite. Plongée dans l'histoire, dans l'agitation de la France, de la Troisième République au moment de l'affaire Dreyfus et de la montée des ligues. Dans la France des années 30 et de la menace des ligues. Ouais, tu l'as déjà dit ça. Dans l'Allemagne de Weimar, dans l'Amérique du Sud des années 60 à 80, l'asymétrie de la violence politique a été centrale pour imposer un discours autoritaire et brutal. Le champ démocratique est un plan incliné. L'extrême droite prend le pouvoir sur fond de désordre et de violence de rue. L'extrême gauche, historiquement, sur fond d'effondrement de l'État et de défaillance militaire. Les communistes des années 30 n'étaient pas des enfants de cœur, mais les renvoyer dos à dos avec les nervis fascistes étaient après près d'un siècle de recul nous semble fautif. Le Parti social-démocrate allemand, grande force républicaine de gauche à l'époque, a eu sa part de responsabilité dans la montée du nazisme en maintenant l'illusion d'une posture équivalente qui a conduit à son propre écrasement. Ça, c'est pour les socialistes. Aujourd'hui, entendre en France des responsables du centre-gauche saisir l'opportunité de régler leurs comptes et de se débarrasser d'adversaires encombrants pour s'imposer dans les sondages me paraît une faiblesse politique et une facilité d'estrade. Coucou Olivier Faure, on parle de toi. François Hollande aussi, on parle de toi d'ailleurs. Quant à la droite, qui y voit l'occasion d'un apaisement de façade pour pouvoir s'allier à l'extrême droite sans faire de cauchemar la nuit, je ne reconnais plus rien en elle de la vigilance chiracienne. Ça, c'est un petit règlement de compte de Dominique de Villepin avec la droite sarkozyste, tendance droite populaire radicale. Et qu'on se comprenne, ce tir croisé sur LFI par calcul, par repositionnement, par opportunisme, a un effet mécanique. Il détourne l'attention du danger principal et contribue à normaliser l'extrême droite en la dispensant d'être interrogée comme elle devrait l'être. Cette illusion de la symétrie, c'est une illusion numérique. Les groupuscules violents d'extrême droite sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux à travers tout le territoire et ils augmentent en nombre chaque jour. Mais en termes de victimes, macabre des comptes, l'extrême gauche a fait une victime ces 5 dernières années. Les militants d'extrême droite en ont fait 11, essentiellement des victimes ciblées sur des bases religieuses et raciales, des motifs profondément politiques. Depuis 1986, rappelle l'historien Nicolas Lebourg, 59 morts sont attribuées à l'ultra-droite contre 6 à l'ultra-gauche. C'est le retour des ligues. C'est un magma de groupuscules qui tisse un réseau de lieux, d'affinités, de thèmes. C'est marrant parce qu'il était le premier à dire qu'il ne fallait pas faire de symétrie et il fait un symétrie de comptabilité. Étrange. C'est une illusion sur les formes de la violence. L'extrême droite, depuis 2 siècles, vise à maîtriser la rue pour imposer la violence comme politique. L'extrême gauche veut imposer une politique par la violence. Quelle différence cela fait ? Quand la gauche est violente, elle effraie et elle nuit à la politique qu'elle veut mettre en œuvre. Quand la droite est violente, elle commence déjà à mettre en œuvre sa politique. Et même quand elle perd, elle gagne en montrant l'horreur du désordre et donc la nécessité d'un ordre à tout prix, d'un ordre au prix de la violence. C'est une illusion sur les probabilités des risques. Le pays risque-t-il aujourd'hui de basculer dans un régime de gauche radicale ? Rien n'étaye cette idée. Merci Fioui. LFI stagne dans les sondages autour de 10 à 15%. L'extrême droite est, elle, à 35 ou 40%. Et tous les sondages la donnent gagnante à l'élection présidentielle de 2027. Ce que tout le monde essaye d'oublier pour maintenir la fiction d'une vie politique normale. Merci Envo. Je suis bien d'accord avec lui. Non mais, pardon. Là, vraiment, c'est fou, la dissymétrie. On fait mine de continuer à avoir une vie politique classique, alors que la réalité, c'est qu'on est très très loin du communisme. Par contre, le fascisme au pouvoir, c'est complètement possible dans moins d'un an, dans un an et demi. Aux États-Unis, on voit bien que le risque mortel peut venir moins de groupuscules marginaux que d'une administration Trump qui théorise le mépris du droit et le recours à la violence. Aujourd'hui, la diabolisation de LFI par des amalgames qu'elle a rendues elle-même possibles en raison d'erreurs, voire de fautes stratégiques manifestes, n'a aucun sens. Légitimer une prise de pouvoir identitaire et justifier les ralliements de plus en plus nombreux. Jordan Bardella a ainsi appelé, dans une inversion du stigmate, à un front commun contre LFI. Faut-il vraiment oublier qu'en 1933, le Parti National Socialiste prenait prétexte de l'incendie du Reichstag attribué à van der Lubbe pour interdire le Parti communiste et de nombreuses organisations de l'opposition de gauche et engager la mise au pas de l'Allemagne. Ouais, petite comparaison Bardella-Hitler. La deuxième fausse idée, c'est celle de la normalisation de l'extrême droite, considérée désormais comme une part légitime du débat démocratique. C'est qu'on oublie facilement que l'extrême droite n'est pas un choix comme un autre dans une démocratie, parce que souvent, il n'y a pas de retour en arrière. Aucun régime de gauche radicale n'a été élu en Europe qui n'ait rendu les clés du pouvoir par les urnes. En revanche, de nombreux régimes d'extrême droite ont accédé au pouvoir par les urnes, du moins légalement, sans le rendre. Allemagne, Italie, Hongrie, Roumanie. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est suffisamment souvent le cas pour que ce soit un risque mortel qu'on ne peut prendre. Normalisation des engagements politiques de la jeunesse nationaliste ? Les choses n'ont pas tant changé. Au lendemain d'une manifestation d'hommage à Quentin de Ranque, à Paris, les manifestants ont laissé sur des murs une traînée de croix gammées. Quel parti accumule les condamnations de ses membres pour antisémitisme et pour racisme ? Le Rassemblement National, de manière récurrente. Ne nous laissons pas égarer par des façades repeintes. Quels sont les risques aujourd'hui ? Ils sont doubles. C'est d'abord l'installation d'une culture de guerre civile dans laquelle des violences des uns justifieraient sans fin les représailles des autres, écrasant entre elles un centre soucieux d'apaisement et de dialogue, jusqu'à ne laisser qu'un face-à-face des radicalités. C'est ensuite la complicité tacite de toutes les forces politiques à la prise de pouvoir par l'extrême droite. C'est là le nœud. À force de concentrer les coups sur LFI, par tactique, par confort, par calcul, on crée un corridor de respectabilité pour le RN. On lui offre ce dont on a toujours rêvé, l'apparence de la normalité, le privilège d'être la réponse au désordre qu'il prospère à entretenir. C'est marrant parce que Dominique de Villepin, c'est le premier à tailler un costard à la France Insoumise et à expliquer que la France Insoumise a une responsabilité politique majeure dans ce qui s'est passé et dans ce qui est en train de se passer, pour ensuite dire « attention, il ne faut pas trop taper sur la France Insoumise, sinon on crée un corridor pour le RN ». Ce moment exige une résolution. Ne rien céder à la violence, ne rien céder au calcul, ne rien céder aux facilités de la symétrie. La République ne se sauvera ni par les postures, ni par les anathèmes, ni par l'ivresse des camps. Elle se sauvera par la clarté des mots, la fermeté du droit, la responsabilité des partis et le refus de sanctuariser l'extrême droite sous prétexte de combattre ses adversaires. L'heure n'est pas à se compter, elle est à se tenir. Et si la France veut éviter le point de non-retour, elle doit retrouver ce qui fait sa force quand tout vacille, la dignité du débat, l'autorité de l'État et l'esprit de la République. » Bon, là, normalement, je devrais envoyer la Marseillaise pour que... Voilà, machin. C'est pas facile de faire de Villepin en permanence. J'ai essayé de faire de mon mieux. Bon, c'est très Dominique de Villepin. C'est très Dominique de Villepin, c'est-à-dire que c'est très verbeux. C'est très beau, c'est très poétique, c'est très... Oui, d'accord, c'est super, mais... Il y a beaucoup de mots pour pas dire grand-chose. Si ce n'est qu'on note encore une fois que la France Insoumise, selon Dominique de Villepin, a une responsabilité, mais que tout le monde est en train de se perdre dans cette séquence et de paver la voie pour l'accession au pouvoir de l'extrême droite, dont la violence politique est le projet, tout simplement. Et voilà. Pas de symétrie à avoir entre extrême gauche et extrême droite, entre violence de gauche et violence de droite. L'histoire de la République a été écrite contre la violence. Ouais. Et en tout cas, il taille un costard à François Hollande, à Olivier Faure, à un certain nombre de responsables qui, dans la période, profitent du fait que LFI est un genou à terre pour taper dessus encore plus fort, alors que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut se tenir, pour reprendre les mots de Dominique de Villepin. Glucksmann aussi. Oui, Glucksmann aussi. Ouais, Glucksmann, c'est pas nouveau, mais oui, effectivement. Il a sorti la sulfateuse, tout le monde en a pris pour son grade. Bah, c'est un peu ce que je reproche à Dominique de Villepin. Hein. Enfin, ce que je reproche, j'ai aucun reproche à lui faire. Il dit des choses intéressantes, mais il se perd quand même beaucoup dans ses arguments pour dire l'inverse de ce qu'il vient de dire. Mais enfin non, parce que non, c'est une arnaque intellectuelle de dire ça comme ça, parce qu'il est plus subtil que ça, mais on comprend où il veut en venir. Mais voilà quoi. Je me dis que Dominique de Villepin, il a sa place uniquement quand les temps sont durs, quand on vit des choses graves. Mais le reste du temps sur la politique contemporaine, il est tellement dans les sphères de l'esprit que c'est un peu compliqué de lire le villepinisme. Vraie question, non agression. LFI tape sur le PS depuis des mois et espère qu'on va venir à leur secours. Je pense pas qu'LFI attende quoi que ce soit. Il s'agit pas de porter assistance à partis en danger. Mais je pense que ce que veut dire Dominique de Villepin, c'est que la hauteur de vue nécessaire dans les moments qu'on est en train de vivre impose de faire attention aux petits calculs comptables de sondage et d'intention de vote pour être au rendez-vous de l'histoire et de sa gravité. Et être au rendez-vous de l'histoire et de sa gravité, C'est ne rien céder à la France insoumise de sa responsabilité politique si on estime qu'elle en a une. Bien faire la différence avec la responsabilité pénale qui appartient à la justice. Mais pour autant, savoir garder la boussole et garder en tête le fait que l'adversaire, c'est l'extrême droite. Le danger, c'est l'extrême droite. On n'est pas... voilà, l'imminence du danger aujourd'hui, c'est pas la prise de pouvoir de LFI, quoi. C'est... Merci Ludal. Comme le disait Jean, ça a surtout des allures de règlement de compte entre héritier du chiracisme et héritier du sarkozisme. Bah oui, oui, bien sûr. Merci Mikanside. Dominique de Villepin, il essaye de faire renaître une droite chiracienne. Chiracienne, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas un centre d'espace d'une droite républicaine, conservatrice libérale, qui ne s'accommode pas de petits arrangements avec l'extrême droite et qui maintient vivant le cordon sanitaire. Dominique de Villepin n'est pas très éloigné d'un Xavier Bertrand, par exemple. Ou d'une Valérie Pécresse dans son genre. Voilà. Mais ils sont minoritaires. Hein. Ils sont minoritaires au sein de LR. Je vous rappelle que... Alors, ouais. Bruno Retailleau a été élu président des Républicains très largement par les adhérents. Villepin, il n'a jamais été élu ou candidat à quoi que ce soit, c'est facile d'être au-dessus de la mêlée dans ce contexte. Tu as raison. De Gaulle non plus. N'avait jamais été élu à quoi que ce soit. C'est ça le gaullisme. Hein. Pourquoi Bertrand et Pécresse ne s'allient pas avec Édouard Philippe ? C'est une bonne question et ça pourrait arriver. Non mais vraiment, ça pourrait arriver. Hein. Je suis curieux comme toi de ce qui va se passer dans cet espace politique-là pour voir s'ils vont se mettre d'accord sur une candidature commune, si les Républicains vont se déchirer en deux. Je suis assez curieux de ça. On verra comment se déroule la présidentielle. Ouais. LR n'est pas complètement ruiné niveau finance? Bah non, non. Non, non, je crois pas. LR, ils vont bien. Hein. Non, c'est le RN qui est dans la merde financièrement. Le RN, ils ont des dizaines de millions d'euros de dettes. Après, ils ont des perspectives de remboursement puisqu'ils ont des scores aux élections qui sont énormes. Donc... Le RN a de beaux jours devant lui, d'un point de vue financier. On est bientôt sur la fin de LR, une nouvelle scission. Moi, vous savez, je me méfie des scissions, parce que ça fait des années, voire des décennies, qu'on nous promet la scission bientôt. Des Républicains, du Parti Socialiste, etc. À la fin, il n'y a jamais de scission. Ils finissent toujours par faire l'unité du parti et par rester unis malgré tout. Alors, il y en a qui se cassent du parti, ça arrive. Le PS a perdu des plumes avec des gens qui se sont barrés chez les macronistes. LR aussi, ils ont perdu des plumes avec des gens qui se sont barrés chez les macronistes. Il y a eu, comment il s'appelle Éric Ciotti, qui s'est cassé et qui a fait une alliance avec le Rassemblement National, mais ça n'a pas tué les Républicains. Merci, Akcho. Et le PS, bah le PS, il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui s'est barré en 2008 pour créer son truc de son côté. Il y a eu certains responsables du PS, notamment Manuel Valls, qui se sont barrés pour rejoindre les macronistes, mais ça n'a pas scissionné le parti. Le parti, il est resté. Donc, moi, je suis assez prudent sur les questions de scission. On verra comment se passent les municipales, on verra la présidentielle, on pourra être surpris des défections, des trucs comme ça, mais une défection n'est pas une scission. Par contre, si tu me dis scission du NPA, là, je dis oui. Oui, bah oui. Là, pour le coup, à la gauche de la gauche, les scissions, c'est une pratique régulière. Merci, Mary Wen. Mélenchon, il a créé un petit parti en 2008.
Ouais.
Mélenchon a quitté le Parti Socialiste pour créer le Parti de Gauche, le PG. Puis il a reçu l'investiture du Parti Communiste pour la présidentielle de 2012. Sous l'étiquette du Front de Gauche. Et il a continué comme ça jusqu'en 2016, où il a créé la France Insoumise. Il s'est défait de l'alliance avec... Non, il s'est pas défait de l'alliance, parce qu'ils ont continué à faire alliance avec... avec le Parti communiste, jusqu'à ce que le Parti communiste décide d'élire Fabien Roussel avec sa stratégie d'autonomisation du PCF. C'était le seul moyen pour Jean-Luc Mélenchon de gagner un congrès du PS. Non, ça, c'était lors de la création de la NUPES. Au moment de la création de la NUPES, quand ça a été annoncé, il y a un député européen écologiste qui s'appelle David Cormann, qui ne manque jamais d'esprit, et qui avait tweeté « Ça y est, Jean-Luc Mélenchon a enfin gagné un congrès du PS ». Et j'avoue que j'ai éclaté de rire dans mon lit quand j'ai lu le tweet. J'ai fait, c'est un peu ça. Il y a de l'idée. Oui. bravo Jean-Luc Mélenchon, effectivement. Ça a mis du temps, hein. Il a fallu 10-15 ans. Mais ouais. Alors justement, attendez, parce que puisqu'on en parlait... Je voulais qu'on discute de, justement, la position des socialistes dans tout ça. Parce que Dominique de Villepin n'a pas mâché ses mots. Dominique de Villepin n'a pas mâché ses mots contre les gens du centre-gauche qui prennent des positions, disons, discutables sur la question de la France insoumise. Merci, Holler. Et justement, le journal Le Monde a fait un article sur ce sujet. Quentin de Ranque, mort de Quentin de Ranque, la gauche social-démocrate se divise sur l'attitude à tenir vis-à-vis de Mélenchon. Dénoncer l'extrême droite ou s'aligner sur la France insoumise. La secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier et le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure se font discrets sur la scène médiatique nationale pour éviter de trancher cette question stratégique. Et oui. Parce que là, on est à moins d'un mois de l'entre-deux-tours des élections municipales, où il va falloir prendre des décisions dans beaucoup de villes, notamment potentiellement des décisions d'union avec la France insoumise. Et à d'autres endroits, potentiellement des décisions d'union avec des macronistes. Rester à l'abri en attendant que l'orage passe. Depuis la mort de Quentin de Ranque, jeudi 12 février à Lyon, victime d'une agression de la part de militants antifascistes, Marine Tondelier et Olivier Faure se font discrets sur la scène médiatique nationale. La secrétaire nationale des écologistes et le premier secrétaire du Parti socialiste ont pourtant été très sollicités. Faut-il y voir une forme de gêne sur l'attitude à tenir vis-à-vis de la France insoumise après l'interpellation de plusieurs collaborateurs parlementaires du député LFI du Vaucluse, Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, le groupuscule lyonnais auquel appartenaient plusieurs suspects. Faux, réplique l'entourage d'Olivier Faure, qui met en avant la mesure et l'apaisement nécessaires dans la période. On est en campagne, évacue celui de Marine Tondelier. C'est bien pratique. Les deux dirigeants de la gauche ont publié un texte écrit, une méthode qui leur évite le ping-pong avec les journalistes. Candidate à l'élection présidentielle de 2027, Marine Tondelier ménage le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, préférant fustiger les violences politiques venues de l'extrême droite. De son côté, Olivier Faure pointe certes du doigt l'incapacité de la France insoumise à reconnaître qu'elle a fait fausse route, mais regrette surtout une insupportable inversion, celle selon laquelle l'antifascisme serait le nouveau fascisme. Pour ses contempteurs, Cette prudence à l'égard de LFI repose toujours sur le même ressort, récupérer les électeurs de la gauche radicale après le départ du chef de file des Insoumis. Ça, c'est un long shot. Hein. Ça, c'est un long shot de la part du PS que de croire que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont revoter PS dans 5-10 ans quand Jean-Luc aura tiré sa révérence. Dans une première version de son poste de blog, Olivier Faure avait quand même mis sur le même plan la jeune garde et des groupuscules d'extrême droite, Génération Identitaire et Action Française, critiquant les compagnonnages politiques avec ce type d'organisation. Colère de Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui dénonce une faute politique d'une exceptionnelle gravité. Entre-temps, le premier secrétaire du PS avait supprimé les noms des divers collectifs. Ouais, c'est un peu tard, hein. Notre discours fait la différence entre l'idéologie d'extrême droite qui est mortifère en elle-même et les méthodes qu'emploie l'extrême gauche que nous dénonçons, justifie le dirigeant socialiste au Monde. Ouais, ok, pourquoi pas, mais... En réunion de groupe, mardi, le chef de file du PS avait déjà pris soin de mettre en garde contre l'inversion accusatoire, relate un témoin. Ce jour-là, deux lignes s'affrontent dans une ambiance grave et tendue. Il y a ceux qui craignent l'instrumentalisation par l'extrême droite du drame lyonnais et qui ne souhaitent pas taper sur la gauche, de peur de froisser les électeurs qui veulent l'union. Et les autres, François Hollande ou Aurélien Rousseau, députés des Yvelines, convaincus qu'il faut prendre ses distances avec Jean-Luc Mélenchon, car toute ambiguïté sur la compromission avec LFI abîme irrémédiablement la gauche. Entre les deux, il y a aussi le silence de Boris Vallaud, président de groupe des députés socialistes à l'Assemblée nationale et potentiel candidat à une primaire interne du PS pour 2027, qui n'a échappé à personne. Oui, Boris Vallaud ne s'est pas exprimé. Alors, peut-être qu'il l'a fait depuis la publication de l'article, mais... En toile de fond, les élections municipales. En danger à Lyon, Marseille et Paris, certains candidats socialistes et écologistes pourraient avoir besoin des insoumis lors du second tour. Bah oui. Pour l'aile droite du PS, opposée depuis toujours à Jean-Luc Mélenchon, la ligne est claire. Il faut faire sans LFI. Il ne peut pas y avoir un accord électoral avec LFI, même si ça nous coûte un certain nombre de villes en France, a affirmé l'ancien président de la République François Hollande sur TF1. François Hollande qui n'est pas candidat au municipal. Donc c'est toujours plus facile à dire. En lice pour 2027 lui aussi, le député européen Place Publique Raphaël Glucksmann s'est montré catégorique dès lundi sur RTL, alors même que les interpellations n'avaient pas eu lieu. « Il n'y aura plus d'accord politique avec la France insoumise, nous allons la combattre politiquement. » Une position tranchée que certains socialistes lui ont reprochée. On rappelle que Raphaël Glucksmann, il est à la tête de Place Publique. Place Publique n'a jamais fait d'alliance avec LFI à aucune élection, jamais. Donc, il y a un côté, t'es gentil Raphaël, mais en fait, ça te coûte pas très cher. De dire, ah, plus jamais je ferai d'alliance avec un parti avec lequel je n'ai jamais fait d'alliance. Ok ? Bah, vis ta vie, en fait. Mais la NUPES, Glucksmann, il était déjà à Place Publique. Glucksmann, il n'est pas député français, il est député européen. Il a été tête de liste aux élections européennes. Et les circonscriptions qui ont été cédées à des têtes de liste Place Publique, c'était cédé sur le quota du Parti Socialiste. Non mais à ce moment-là, ok. Non mais, dont acte, Raphaël Glucksmann ne veut plus faire d'alliance avec la France Insoumise, ok. Bah dès lors, tu te démerdes pour avoir des circonscriptions, en fait. Vas-y, présente tes candidats, frère. Si tu peux pas aller gratter une circo à un parti membre de du NFP et te plaindre que le NFP fasse une alliance avec... soit une alliance dans laquelle il y a LFI. Bah non, frère. Enfin, je fais ce que tu veux, mais... Je trouve ça un peu gonflé. Hop. Même à la direction du PS aussi, on se montre plus ferme qu'auparavant. Le secrétaire général Pierre Jouvet assure au Monde qu'il n'y a pas d'accord national avec LFI au premier et au second tour. Mais ça, on le sait, ça. Si dans de rares cas de figure, la volonté de certains candidats insoumis est de rejoindre les listes d'union de la gauche au second tour, Alors, ils doivent clarifier leur position sur le rapport de leur mouvement à la violence politique, à la brutalisation de la vie publique. Sinon, ils ne peuvent pas espérer d'accord avec nous. La responsabilité est chez eux, pas chez nous. C'est très habile de la part de Pierre Jouvet de dire ça comme ça. La vraie question étant, oui, mais qu'est-ce qui se passe si c'est à des candidats socialistes de faire alliance avec LFI? Non mais... Le côté ceux qui viennent gratter à la porte doivent montrer patte blanche. Mmh. Très bien. Et si c'est à toi de gratter, et si c'est à toi de gratter à la porte, tu fais comment? Non mais ok, on verra bien. Mais et puis encore une fois, c'est pareil. Là, genre, Pierre Jouvet, il a une posture qui est logique parce qu'on est avant le premier tour. Encore une fois, il a une posture qui est de dire ceux qui veulent fusionner ces listes avec les nôtres quand on est en tête à gauche. Doivent faire le tri dans leurs idées et le tri dans leurs propositions. Mais qu'est-ce qui se passe si dans des villes au second tour, le PS a besoin d'LFI pour être élu? Bah là, le ton, il va changer, en fait. Enfin, tu vois, donc c'est normal, le ton d'avant premier tour n'est jamais le ton d'entre deux tours. Évidemment, tu changes de ton en fonction des scores. Ça me fume. Non, mais c'est le jeu. En décembre 2025, les proches d'Olivier Faure n'excluaient pas de soutenir au second tour le mélenchoniste David Guiraud à Roubaix. Bah oui, bah évidemment. Il se montrait aussi moins définitif que le candidat socialiste à Paris, Emmanuel Grégoire, sur d'éventuelles discussions avec la candidate LFI Sophia Chikirou après le premier tour. Bah oui. La situation politique complique un peu la primaire de la gauche, soutenue par les écologistes et les ex-insoumis de l'après, François Ruffin et Génération, et sur laquelle le PS doit encore se prononcer. Certains continuent de laisser la porte ouverte à Jean-Luc Mélenchon. Oui, dans les mots, oui. Mais dans les têtes, non. Personne n'a de doute sur le fait que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat à la primaire. Donc dans les mots, tu peux le dire, tu peux toujours le dire, on tend la main à Jean-Luc, rejoins-nous. Oui, d'accord, ok, très bien. Tu sais très bien que ça n'aura pas lieu. Bon, c'est pas grave, c'est pas le bout du monde. Ce n'est pas tant qu'ils ne veulent pas, mais ils rendent les choses impossibles. Ils ont encore mis une nouvelle brique pour entériner l'idée des gauches irréconciliables, explique la députée Clémentine Autain, candidate à la présidentielle. C'est une chose que de dénoncer la stratégie mélenchoniste, mais c'est une autre que de se couper de l'électorat insoumis. Nous ne pouvons pas nous le permettre face au danger de l'extrême droite. Marine Tondelier était sur cette ligne. Impossible pour le moment de savoir si sa position a évolué une semaine après les événements lyonnais. Merci de Flash. Voilà pour cet article qui montre bien comment les socialistes et les écolos sont gênés aux entournures avec la position vis-à-vis de la France insoumise. Les gens qui sont les plus vocaux pour critiquer la France insoumise sont ceux qui n'ont pas d'enjeu municipal. François Hollande et Raphaël Glucksmann. Les autres, ils sont un peu réalistes, ils sont sur le terre-terre et ils voient bien que ça risque d'être une débandade dans beaucoup de villes s'il n'y a pas d'alliance avec LFI. Merci Urasage. On verra évidemment les scores au soir du premier tour, mais voilà quoi. Je comprends pas, les électeurs n'ont pas besoin d'alliance, ils feront barrage au RN. Alors non, ça marche pas comme ça, les municipales. Les municipales, il faut que tu arrives en tête au second tour pour avoir la majorité des sièges au conseil municipal. Et ça, si t'as deux listes qui se maintiennent et qui ne fusionnent pas, tu cours à la catastrophe. C'est la garantie, par exemple, à Paris, très bon exemple à Paris, si Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou ne fusionnent pas leur liste au second tour, c'est la victoire de Rachida Dati assurée. Donc c'est pas juste une question de vote barrage, c'est aussi une question là pour le coup de stratégie. Marine Tondelier avait expliqué le pourquoi des rencontres avec l'extrême droite et le copinage avec Wauquiez. Il n'y a pas de copinage avec Wauquiez. Il y a une photo qui a circulé de Marine Tondelier en train de parler avec Laurent Wauquiez. Donc, spoiler alerte, les responsables politiques se rencontrent. Ils se parlent, ils échangent, ils discutent, ils sont présents à des événements. Voilà, c'est tout ce que cette photo nous a appris. Rien d'autre. Quoi, ils se parlent, trahison. Quel enfer. Franchement, la gauche me désespère à chaque campagne, c'est toujours pareil. Bah oui, enfin oui, mais ça fait plus d'un siècle. C'est-à-dire que non, la gauche n'est pas unifiée dans un seul et même parti. Il a existé des moments où il y avait des partis hégémoniques. Ça a été le cas du Parti Socialiste pendant plusieurs décennies. Mais la gauche est divisée. Elle se présente sous différentes bannières et elle a des stratégies d'accord ou de désaccord aux élections en fonction de ce qu'elle porte. C'est un grand spectre, la gauche. Merci, Tillery. Donc voilà. Donc comme on l'a vu avec Dominique de Villepin et tout ce qu'il a raconté, il y a effectivement dans le moment particulier qu'on est en train de vivre, en fait, on ne peut pas lire l'événement qui s'est déroulé, Quentin Derenck et sa mort, en faisant abstraction du contexte politique français et européen, c'est-à-dire la montée de l'extrême droite et son arrivée prochaine au pouvoir. Et ça force à avoir une lecture et des comportements qui sont différents. Tu peux pas te contenter d'exclure la France insoumise et de les juger responsables de tout. Même si tu lui reconnais à la France insoumise des responsabilités politiques. Et c'est là que je suis d'accord avec Dominique de Villepin sur le fait de dire que mettre au regard extrême gauche contre extrême droite, cette espèce de facilité d'arbitre qui m'a toujours énervé à titre personnel, mais c'est parce que c'est mon opinion et on peut être entre des accords, mais je suis plutôt d'accord avec Dominique de Villepin pour dire en fait non, on peut pas faire de parallèle entre l'extrême gauche et l'extrême droite vis-à-vis de la violence. C'est pas un partout la balle au centre, chacun est responsable de son côté, machin et tout. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Et je trouve que c'est un peu irresponsable que de jouer à ce petit jeu-là. C'est faussement se mettre au-dessus de la mêlée. Voilà, je cherchais mes mots, pardon. Est-ce que c'est possible une alliance PS et LFI au deuxième tour à Paris? Ben, je sais pas. La question de savoir si c'est possible est une question qui en appelle une autre. C'est est-ce que c'est nécessaire ou pas? Voilà. Est-ce que la gauche va perdre Paris après 25 ans? Est-ce qu'elle en a envie d'avoir Rachida Dati maire de Paris? Après, elle fait ce qu'elle veut, la gauche, hein. Bon, pas obligé d'avoir la mairie de Paris. Hein. J'ai l'impression que les responsables politiques n'ont pas retenu les leçons de l'histoire. Franchement, ça me fait peur. Est-ce que nous, on est à la hauteur de l'histoire? Je ne sais pas. Hein. Je reste humble. Les Parisiens sont de gauche, non? Ouais. Je sais pas, tu veux que je te réponde quoi? Il y a 2 millions d'habitants. Il y a des quartiers populaires, il y a des quartiers bourgeois, il y a... Je sais pas, c'est une très très grande ville, Paris. Les quartiers populaires le sont moins. Pierre Jouvet, le PS admettra dans de rares cas de figure des rapprochements avec LFI, disant qu'ils devront clarifier leur position sur le rapport de leur mouvement à la violence politique. Non mais oui, non mais voilà, c'est facile à dire. Oui, ok, d'accord. La France insoumise devra clarifier son rapport à la violence politique. Très bien. Réponse de LFI. Bah, on n'a jamais été pour la violence politique. Voilà, fin de la discussion. Ouais, c'est d'accord. Ok, non, non, mais très bien, très bien. Mais ça me fait penser aux négociations sur la NFP avec le PS qui dit nous on veut rajouter dans le programme la lutte contre l'antisémitisme. Et la fille, ils ont répondu ok, très bien. Non, chaud pour lutter contre l'antisémitisme, bah vas-y. Voilà, donc ils l'ont rajouté, tout le monde était content. Fin de la discussion. Tu vois, c'est pas un bras de fer, c'est pas. Il se laisse clairement l'opportunité d'avoir des alliances de second tour. Oui. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Non, non, je suis d'accord avec toi. Effectivement, les conditions vont pas être très chères. Hein. Les conditions vont pas être très chères. Ajouter à ça, enfin, je veux dire, ajouter à ça que dans les programmes, au municipal, LFI et le PS sont pas très éloignés. C'est pas insurmontable. T'as peut-être des points de désaccord un peu chiants sur le fait d'armer la police nationale, la police municipale, des trucs comme ça. Bon, d'accord, ok, la vidéoprotection et tout, mais c'est pas insurmontable du tout. Hein. Je veux dire, un accord, ça se fait. Je dis ça, j'ai travaillé à la mairie de Paris pendant des années. La gauche est unie depuis 2001. Bon, bah, ça s'engueule, voilà, ça s'engueule. Il y a des bisbilles, il y a des histoires où les écolos, ils veulent des trucs, les socialistes, ils veulent d'autres trucs, les communistes sont pas d'accord, machin. Bon, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça se surpasse, ça se surmonte, un désaccord à gauche. Au fond du fond du fond, la gauche, elle préfère être au pouvoir et faire des trucs bien plutôt que d'être dans l'opposition et être unie, quoi. À Lyon, les municipales prennent une drôle de tournure. L'événement donne à Aulas l'opportunité de dire encore n'importe quoi. Ouais, apparemment, la campagne municipale à Lyon, elle est très très perturbée, évidemment, on s'en doute, par la mort de Quentin Derenque. On verra. Je maintiens ce que je vous disais il y a quelques jours, à savoir que je ne suis pas encore persuadé que cet événement va avoir un impact significatif pour les élections municipales. Je suis dubitatif. Faudra voir, faudra des enquêtes d'opinion un peu précises pour voir si des électeurs ont changé leur vote parce que Quentin Derenque est mort et parce que le contexte politique a changé, etc. On verra ce qui se passe demain après la manif. Ouais. Oui, bien sûr. On verra comment se déroule la manif de demain à Lyon. On verra si, ouais, si ça s'embrase ou si ça s'apaise. Olas s'en fout. Il a été interviewé. Il parlait de problèmes de circulation. Bah, il veut pas faire une campagne municipale sur ce thème-là. D'autant que, pardon, mais la municipalité ne peut pas faire grand-chose sur le sujet. Des bagarres, des affrontements entre groupes rivaux dans la rue, le maire peut pas faire grand-chose, si ce n'est déplorer que ça existe et demander au préfet d'agir. Il peut faire de la prévention, il peut faire des trucs comme ça, mais c'est bon. N'y a pas un certain poids au niveau des forces de l'ordre locales? Si le maire participe à la discussion avec les autorités sur les enjeux de sécurité de la voie publique. Donc oui, tu peux peser dans la discussion, une municipalité peut faire savoir à la préfecture avec force qu'elle attend plus de présence policière pour encadrer les manifestations politiques. J'en sais rien. Enfin, voilà, tu peux faire des choses, tu peux demander, tu peux gueuler, tu peux peser politiquement, mais c'est pas ta compétence directe. La propreté des rues, oui, ça c'est ta compétence directe. Ben, oui, politique de propreté, ça te regarde directement, oui, c'est sûr. Donc, est-ce qu'à Lyon, il y a une police municipale? Je sais plus. Je crois, oui, qu'à Lyon, il y a une police municipale. Mais une police municipale, c'est formidable, la police municipale, hein, mais ça, je suis désolé, encore une fois, pardon, mais c'est pas tout à fait de leur ressort, les interventions sur des groupes violents. La police municipale. Sa principale compétence, c'est d'appeler la police nationale. C'est très méchant de dire ça comme ça, parce que c'est pas vrai. La police municipale, elle fait des choses formidables sur la prévention, sur le lien avec les commerçants, sur la circulation, la tranquillité publique, des verbalisations sur des incivilités, des trucs comme ça, des amendes, etc. Donc la police municipale fait plein de choses. Mais là, on parle de groupes qui se battent dans la rue. C'est du ressort de la police nationale assez rapidement. Police municipale peut essayer de faire baisser la tension au début. C'est complètement faux. Chez moi, ils appellent la gendarmerie. Ben c'est parce que tu habites dans une zone dans laquelle la gendarmerie intervient. À Lyon, on n'appelle pas la gendarmerie, on appelle la police nationale. Tu t'es fait bait, Jean. Je crois que je me suis fait bait par une blague. J'y ai repensé après. Je me suis dit, attends. En vrai, il dit ça pour rigoler. Non, non, mais c'est oui. En vrai, c'était un peu marrant. Mais c'est juste que moi, j'ai pas de second degré là aujourd'hui. Je suis pas réveillé. C'était mauvais. Non, c'était pas mauvais. C'est moi qui suis tombé dedans comme un connard alors que c'était gros comme une maison, que c'était une blague. Mettez des capas, putain! Mettez des capas, on est sur Twitch, mais aidez-moi un peu. Merci Caporal Fantôme. Merci, merci. Et pour une rixe de serre, on appelle la police rurale ou le garde champêtre. C'est pas du ressort du maire. Ça, quand il y a des serres qui se montent sur la tronche pendant la période de rut. Il faut appeler le garde champêtre, c'est son boulot. Alors, on va lire un papier d'Alexandre de Vecchio dans le Figaro, qui prend une position. Alors, pour le coup, lui, vous allez voir qu'il choisit d'enfoncer le clou de la dédiabolisation du RN par la diabolisation de la France insoumise. C'est que la France insoumise est devenue intolérable, inacceptable, par opposition au RN qui est lui totalement normalisé, qui est en plus victime dans l'histoire, etc. Alexandre Devecchio, meurtre de Quentin de Ranc à Lyon pour en finir avec les fausses équivalences entre LFI et le RN. Donc c'est littéralement le point de vue inverse de celui de Dominique de Villepin. La bataille des idées. Après la mort du jeune Quentin, certains observateurs et acteurs politiques tentent de renvoyer le RN et LFI dos à dos. Une analyse qui confine au déni de réalité. Exercice théorique. Imaginons un étudiant lynché mortellement en marge d'un meeting d'un député RN à Sciences Po. Imaginons que le député en question ait des liens avérés avec le groupuscule impliqué dans ce meurtre. La condamnation du RN aurait été immédiate, unanime, et toute relativisation des faits jugée indécente. Mais en vérité, si l'on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, un tel scénario n'avait aucune chance de se produire. D'abord, parce que sont interdits de séjour à Sciences Po et à l'université, non seulement les représentants du RN, mais aussi toute personnalité refusant la doxa d'extrême gauche. Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter, Sylvia Nagasinski, entre autres, en ont fait les frais. Donc déjà, il n'aurait pas pu y avoir de conférence à l'université d'extrême droite, parce que l'extrême droite n'est pas la bienvenue à l'université. Merci Alexandre Devecchio déjà de nous rappeler qu'effectivement l'université c'est pas non plus un moulin. Il est donc impensable qu'un député du camp national, au CV aussi sulfureux que celui de Rima Hassan, ait été accueilli en rockstar dans une quelconque faculté. Alors on confirme qu'effectivement dans les universités on n'accueille pas l'extrême droite en rockstar. C'est vrai. Et c'est plutôt rassurant par rapport à, je sais pas, l'histoire de l'Europe, tout ça. Ensuite, parce que sous la direction de Marine Le Pen, le RN n'a cessé de prendre ses distances et même de condamner fermement les groupuscules extrémistes. Enfin, parce que l'extrême droite révolutionnaire est à juste titre étroitement surveillée et, contrairement à l'extrême gauche, n'a jamais fait l'objet de la moindre complaisance. La police qui est complaisante avec l'extrême gauche ? Je suis pas sûr de ça. Je suis vraiment pas sûr. Pourtant, Quentin de Ranc n'était pas encore décédé que déjà nombre de médias et d'observateurs ont tenté de le renvoyer dos à dos avec ses agresseurs. Le jeune catholique aux convictions nationalistes était présenté en nervi fascisant pour mieux relativiser et même dans certains cas justifier son meurtre. La palme de l'indignité revenant à France Info, convoquant deux sociologues proches de l'extrême gauche pour instruire le procès de l'extrême droite. Les sociologues qui instruisent le procès de l'extrême droite, c'est pénible la sociologie. Hein. La gauchologie, pardon. Celle du ridicule à Sandrine Rousseau, prétendant être menacée par l'OAS, organisation pro-Algérie française, qui a cessé ses activités fin 1962. Pour la gauche, cette inversion accusatoire a pour objectif d'entretenir un théâtre antifasciste qui lui a permis de diviser la droite et de se présenter comme le camp du bien. Alors, diviser la droite, ça veut dire cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite. Ce contre quoi Alexandre Devecchio milite, évidemment. Lui, il est pour l'union des droites. Mais cette rhétorique est aussi entretenue de manière plus subtile par le centre de l'échiquier politique. Après avoir fait élire des députés insoumis pour faire barrage au RN aux dernières législatives, les macronistes se démarquent de LFI, mais sans pour autant renoncer à la diabolisation d'une partie de la droite. Alors ça, c'est une accusation historique de l'extrême droite, c'est de dire que la France insoumise a été élue en partie grâce aux macronistes. Finalement, les macronistes et LFI, c'est pareil. Tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, ce sont des gens qui se sauvent les fesses mutuellement, ce qu'on appelle le barrage républicain. J'en étais où ? À leurs yeux, il y aurait une équivalence entre le parti de Marine Le Pen et celui de Jean-Luc Mélenchon. Ainsi, de la classification officielle de LFI à l'extrême gauche. Ainsi, des propos de Yael Braun-Pivet qui appelle à élargir le barrage anti-RN à un front anti-extrême. On est tenté d'y voir une stratégie politique visant à apparaître comme la seule alternative possible. En tout cas, le parallèle entre le RN et le LFI ne résiste pas à l'analyse. Le RN s'inscrit dans un cadre pleinement démocratique et a rompu tout lien avec des groupuscules factieux ou violents. Il combat l'antisémitisme, oui, et sanctionne en son sein tous les éléments infréquentables. Oui, oui, oui. Circuler, il n'y a rien à voir. La France insoumise a une relation trouble avec la violence, appelle à l'insurrection. La révolution citoyenne, là ? Tranquille, hein. Les insoumis sont dans une logique de déconstruction, voire de destruction de la société française. Avec des marteaux. Ils prennent des marteaux, ils tapent sur la société comme ça. Ils veulent tout casser. Et ils entendent faire accoucher leur utopie révolutionnaire par tous les moyens. Tain, c'est vraiment le péril rouge. C'est vraiment le péril rouge. C'est-à-dire que les insoumis, ils ont les yeux injectés de sang et ils ont un couteau entre les dents. Et ils sont très en colère comme ça. Et vous en avez jamais croisé ? C'est chaud, hein ? Ah non, faites gaffe, hein ! Le RN, au contraire, entend préserver un héritage social et culturel commun en utilisant la seule arme de la politique. On ne peut les renvoyer dos à dos. De même qu'on ne peut mettre un signe d'égalité entre un jeune nationaliste défendant ses idées pacifiquement. Ouais, on va attendre la fin de l'enquête quand même. Et ses agresseurs usant de la terreur pour imposer leur idéologie. Bon, bah comme je vous l'avais dit, hein, c'est le point de vue inverse de celui de Dominique de Villepin. Là, on n'est plus... On est, en fait, Alexandre de Vecchio, il accuse le centre, et notamment Yael Bonne-Pivet, de renvoyer dos à dos le RN et LFI, et il accuse de ça en disant que c'est dangereux, parce que le vrai danger, c'est LFI, alors que le RN, ils sont gentils, tout mignons, ils font que le bien, donc il n'y a pas de raison de les assimiler à cette bande de dégénérés fous furieux de la France insoumise. Un grand média d'information, c'est ça. Ça, c'est une tribune. Il va vraiment falloir que vous appreniez à faire la différence. Et c'est normal que vous ne soyez pas d'accord avec une tribune. C'est à ça que ça sert, d'ailleurs, même. L'auteur sait qu'il est excessif, il se sent le droit de l'être. Bien sûr, oui, bien sûr. Objectif de la tribune, choqué. Bah, les gens de gauche, oui. Non, mais ne faites pas croire que vous découvrez le Figaro, quand même. C'est normal de ne pas être d'accord. Si vous avez le cœur à gauche, je ne sais pas qui vous êtes, hein. Mais si vous avez le cœur à gauche, c'est normal que vous ne soyez pas d'accord avec ce qui est écrit dans les tribunes. Et j'ai l'impression qu'il y en a... Non, je lis le chat, j'ai l'impression qu'il y en a qui découvrent vraiment genre la presse écrite. Oh, mais c'est fou, on lit des choses. Bah ouais, on lit des trucs. Ah ouais, ouais. Et attendez quand on va faire les meetings de Marine Le Pen et Jordan Bardella pendant la présidentielle, hein, quand on va les diffuser et les commenter... Report streamer. Il y a des articles du Fig qui sont moins perchés que ça. Mais ça, c'est une tribune. Encore une fois, c'est une tribune du Figaro. Je sens que je vais vous relire des tribunes du Figaro parce que moi, j'en lis depuis 20 ans à peu près. J'en bouffe un paquet et du coup, je suis très habitué, mais je sens que... Donc, il y en a pour qui c'est une découverte. Et le Figaro est un excellent journal. Très, très bon journal de couverture de l'actualité politique. Notamment, en tout cas, c'est ce qui me concerne. C'est ce qui m'intéresse. C'est quoi une tribune ? Une tribune, c'est un texte qui est publié par un journal... signé par un auteur qui peut être extérieur au journal ou intérieur au journal, peu importe, et c'est un texte de prise de position. Ce n'est pas une interview, ce n'est pas un reportage, ce n'est pas un article circonstancié qui rapporte des faits, c'est une grille de lecture du monde. On appelle ça une tribune. Ça peut être co-signé par plusieurs personnes, voire même des centaines de personnes, c'est possible. C'est une prise de position. C'est quoi la différence avec l'édito ? Alors, l'édito, en fonction des journaux papier, ça dépend desquels. L'édito, il est signé par la rédaction, ou par le rédacteur en chef du journal, ou par l'éditorialiste du journal. Enfin, bref. Et en principe, t'as un édito par jour pour un quotidien qui est signé et qui donne le ton de la rédaction. C'est plus ou moins collectif, un édito, ça dépend des journaux. L'édito, c'est une prise de position qui est quand même endossée par le journal. Oui, oui, l'édito, oui. C'est une prise de position qui est endossée par, par la rédaction. Encore qu'il peut y avoir plusieurs éditos aussi, c'est possible, mais bref. Après, il y a des journaux qui ont des... Il y a des journaux qui ont des pages débat, par exemple. Les pages idées ou les pages débat, ça dépend, les deux existent. Ce sont des pages dans lesquelles les journaux invitent des personnes à écrire leurs arguments pour les mettre en relation les uns les autres. Donc tu peux avoir un... C'était le journal Marianne qui faisait ça à une époque. La rubrique s'appelait « Ils ne pensent pas forcément comme nous ». Et tu avais des plumes qui écrivaient, qui intervenaient dans le débat public pour donner un point de vue. Et puis tu avais un autre point de vue qui était défendu. Et c'était, voilà. Il y a des journaux qui font ça, qui s'en font une spécialité. 80% de la presse écrite est dirigée vers les opinions de droite. C'est normal de s'en détourner. Mais fais ce que tu veux. Ah non, non, mais détournez-vous. Hein. Ne lisez que ce qui vous convient. Surtout, ne faites jamais l'erreur de lire des éditos, des tribunes avec lesquels vous êtes en désaccord. Si c'est ce que vous souhaitez, ne le faites pas. C'est très bien de ne pas le faire. Je comprends qu'on ne le fasse pas. Moi, c'est mon métier de le faire. Mais il y a des gens, pour leur tranquillité d'esprit, ils préfèrent ne lire que des trucs avec lesquels ils sont d'accord. Je peux comprendre. Je le ferai jamais, mais je peux comprendre. Je suis pas contre, mais ça tue ma santé mentale. Je peux comprendre. Non, non, je me fais gaffe. Je fais gaffe avec le discours qui consiste à dire il faut écouter de tout, il faut lire de tout, il faut se confronter ses opinions en permanence, etc. Je trouve que c'est une posture. Intellectuellement, c'est séduisant. Je peux comprendre aussi qu'on n'ait pas envie de le faire tout le temps. Il y en a qui ont envie de le faire jamais. Et ils ont le droit. C'est pas mon cas, mais ils ont le droit. Je peux comprendre aussi qu'il y a des moments où on en est ras la casquette, que l'ambiance est irrespirable, c'est suffocant, c'est pénible, on a envie de passer à autre chose et tout. Bon, voilà, très bien. Donc, c'est pour ça que moi, je vous ai toujours dit, faites ce que vous voulez. Par contre, sur ma chaîne, ça, on va être très clair là-dessus, sur ma chaîne, vous allez entendre des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une promesse que je vous fais. C'est écrit dans les conditions générales de la chaîne. C'est la base de... Voilà. C'est ce qui va se passer sur cette chaîne. Il y a d'autres chaînes qui vont vous proposer d'autres choses. Et pourquoi pas des trucs parfaitement adaptés à des opinions précises, etc. Tant mieux pour elles. Elles ont le droit de le faire, c'est pas de souci. Mais moi, par contre, je vous jure que... On va en lire des articles du Figaro. On va en lire un paquet. Mais qui t'as invité qui dans Backseat? Ah non, non, personne, personne. Là, j'ai lu une tribune du Figaro, il y a eu une réaction du chat. Mais après, il y a peut-être des gens qui sont nouveaux sur ma chaîne, hein, c'est normal. C'est pas parce que ça fait 10 ans que je stream que il y a des gens qui découvrent. Donc c'est normal. Est-ce que tu lis aussi des torchons genre Frontières? Non, j'en ressens pas le besoin. Sur des articles ciblés, peut-être, en fonction d'une actu particulière, mais ça fait pas partie de ma routine de lecture. Bah, ma routine de lecture, elle est pas très compliquée, hein. Moi, je lis Le Figaro, Le Monde, Libération, Mediapart, l'UMA, tous les jours. Depuis 20 ans. C'est ma routine. J'ai mes petits onglets de favoris et je check, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Je lis 3-4 articles par-ci, par-là, par journal. Voilà. En général, je suis assez. En général, ça me suffit. Après, évidemment, sur des questions économiques, je vais aller chercher dans Le Figaro, je vais aller chercher dans Les Échos. Sur des questions culture, ça va plutôt être Libération. Enfin, je dis ça, en fait, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. C'est juste que j'ai l'habitude de trouver des articles qui parlent de ça dans ces journaux-là parce qu'ils ont un angle éditorial particulier. La Croix, c'est vachement bien, La Croix. Ouais, La Croix, c'est super. La Croix, c'est surtout pour les articles de fond, extrêmement bien détaillés, du reportage très précis. Sur le Groenland, par exemple, La Croix, c'est génial. La Croix, ils te font des dossiers entiers avec des cartes incroyables pour comprendre les enjeux du Groenland. Typiquement, pour préparer l'émission qu'on a faite avec Arte sur le sujet, La Croix, c'est le genre de journal que je vais lire, ouais. Ça te coûte une fortune en abonnement. Oui, après, c'est mon métier, hein. Oui. Mais c'est mon métier, c'est mon boulot. C'est comme ça. Puis de toute façon, même quand c'était pas mon métier, je payais déjà une blinde en abonnement, hein. Il y a tellement rien de nouveau et d'intéressant dans la presse de droite que je regrette de perdre mon temps à chaque fois. En même temps, si tu vas y chercher des trucs de gauche, oui, c'est décevant. Ça, ouais. Les abos passent en frais de société. Ouais, bah oui, évidemment. Mes abonnements à la presse écrite passent en frais de société. Un frais de société, c'est pas de l'argent magique, hein, c'est mon pognon, hein, c'est moi qui paye, hein. Donc. Tu constates une droitisation du Figaro avec le temps? Non. Non, pour une raison simple, c'est qu'en fait, le Figaro n'a pas changé d'adresse. C'est la droite qui s'est décalée vers l'extrême droite. Mais le Figaro, toujours de droite, hein. Moi, j'ai commencé à lire le Figaro à l'époque du sarkozysme. Mes premiers articles que j'ai lus, je crois, enfin, en tout cas un peu sérieusement, c'était 2005-2006, les émeutes dans les banlieues après la mort de Ziad Ebouna. C'était pas très différent d'aujourd'hui, hein. Voilà. Après, il y a eu les années Sarko. Après, il y a eu le Figaro pendant les années Hollande. C'était un journal d'opposition, hein. Ça tapait fort, hein. Est-ce que tu connais une presse de gauche qui parle d'économie de manière assez objective? L'objectivité n'existe pas. Ça, il faut définitivement oublier ce mot, ne plus le prononcer, ne même plus l'utiliser. Pas alternative économique. Bah, c'est con, j'allais te recommander alternative économique parce que c'est un peu les seuls que je connais, je t'avoue. L'UMA, ouais, l'UMA, ils font un bon travail économique. Est-ce que tu notes une radicalisation de la parole dans la presse écrite ces dernières années ou c'est plutôt l'apanage des médias TV? Bah, de CNews en particulier, et c'est quand même d'eux dont on parle, hein. CNews en particulier. Après, sur la presse écrite, comme je ne lis pas toute la presse écrite, je ne pourrais pas te dire. Moi, je trouve que c'est assez standard, en tout cas dans le Figaro. Mon média objectif et impartial, c'est Twitch. Non, faut pas. Erreur. T'es abonné à combien de journaux? Le Monde, Libé, Le Figaro, l'UMA, Le Nouvel Obs, Mediapart, Street Press, Backseat. Blast. 9. Si on lit la presse étrangère sur des sujets nationaux, c'est plus objectif, non? Non. Non, ça s'appelle un biais d'exotisme. Parce que ça vient de l'étranger, ce serait plus neutre. Non, pas du tout. Certainement pas. Par contre, c'est passionnant de lire la presse étrangère pour voir comment, à l'étranger, quelle est la perception qu'on a à l'étranger de ce qui se passe en France. Courrier international, c'est bien pour ça. Ouais, le courrier international, c'est assez bien pour avoir un panachage de différents points de vue ailleurs dans le monde sur l'actualité. Comment tu définis la neutralité? Alors, quand on parle des médias et du journalisme, on utilise les mots neutralité et objectivité quand on s'adresse à des collégiens. Parce que ce sont des approximations qui sont suffisamment utiles pour expliquer le béaba à des collégiens. Dès lors qu'on arrive au lycée et dans les études supérieures, on doit apprendre à abandonner ces deux mots, neutralité et objectivité, qui ne servent à rien pour décrire le travail des médias. Il faut utiliser d'autres mots. Il faut utiliser les mots d'angle, de fait, de ligne éditoriale, de projet éditorial, de déontologie. Ce sont des mots plus compliqués, plus nombreux, plus subtils. Et c'est cela qu'il faut commencer à utiliser. Donc, la neutralité et l'objectivité, il faut abandonner ces deux mots-là. Il ne faut plus les utiliser. Ça appartient à l'enfance. C'est pour les petits. Et c'est très bien comme ça. Tu te considères comme journaliste? Non, je suis pas journaliste, je suis streamer. Après, je le prends pas mal quand on dit que je suis journaliste, hein, c'est pas une insulte. La neutralité, c'est simple, c'est quand t'es d'accord avec moi. Les biais et la partialité, c'est quand t'es pas d'accord avec moi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mensonge, comme dirait Clément Viktorovitch. Mensonge! C'est pas un mensonge, c'est juste quelqu'un qui n'est pas d'accord. L'AFP était un peu vu comme ça, étant neutre. Pas du tout, l'AFP n'est pas neutre. L'AFP, ils font des dépêches de journalisme. De très très courtes informations qui sont envoyées à toutes les rédactions qui sont abonnées au fil AFP pour tenir informées de la situation, etc. Il n'y a rien de neutre dans le travail journalistique. Rien. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un atelier que je faisais quand j'étais formateur en liberté de la presse avec des lycéens. Prenez une feuille et un stylo. OK, on va faire un exercice. Vous allez écrire un article. sur le sujet de votre choix. Vous allez écrire un article avec la seule contrainte que cet article doit être neutre et objectif. C'est la seule consigne. Allez, c'est parti, écrivez l'article. Donc, devoir sur table, on écrit un article, etc. Bon, fin de l'exercice. Vous posez votre stylo. Et maintenant, je vous le dis, je ne sais pas ce que vous avez écrit, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce n'est ni neutre ni objectif. Vous avez tous raté. Pourquoi ? Parce que vous avez fait plein de choix pour écrire votre article. Vous avez fait que des choix. Vous avez fait des choix de sujet. Vous avez fait des choix de taille de texte. Vous avez fait des choix de mots. Vous avez fait des choix de précision, de qualification. Vous avez fait des choix de hiérarchie de l'information. Vous avez choisi un angle. Vous avez choisi un format. Vous avez choisi une place dans le journal. Vous n'avez fait que des choix. Et il n'y a rien d'objectif dans ces choix. Ce sont des choix éditoriaux. C'est très bien de faire des choix éditoriaux. C'est utile. Mais il n'y a rien d'objectif dans un article. La photo, ouais, la photo. Vous avez choisi la photo. Vous avez choisi de mettre la photo en petit ou en grand. C'est un choix. C'est une décision que vous avez prise. Ben, c'est très bien. Donc, faites des choix. C'est nécessaire. Dans ce cas, neutre et objectif, ça ne marche jamais. Exactement, c'est bien ce que je dis. Neutre et objectif, ça ne marche jamais. Nulle part, pour aucun média, à aucun moment. Donc, il faut arrêter de parler de neutralité, d'objectivité. En fait, c'est ça qu'il faut souligner, c'est que la neutralité, c'est pas une qualité à rechercher. Ouais, t'as raison. Oui, effectivement. On pourrait même aller plus loin en disant que la neutralité n'est même pas une fin en soi. On peut tendre vers une objectivité, on peut tâcher de... En fait, non, même pas, faut pas que je dise ça, parce que c'est pas vrai. C'est pour ça que on peut faire un travail honnête. C'est pas la même chose. On peut faire un travail honnête, on peut avoir un projet éditorial, on peut faire sobre, on peut faire factuel. Voilà, on peut... Vous voyez pourquoi il faut chercher d'autres mots plus précis. Parce qu'objectif, ça ne veut rien dire. Vous savez ce qui est objectif ? Une table. Une table, c'est objectif. Le rapport au monde d'un objet, c'est objectif. Il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas de point de vue. Une table, c'est neutre. Ok, mais vous et moi, on n'est pas des tables. L'esprit humain n'est pas une table. Et ceci n'est pas une pipe. Et par ailleurs, vous pouvez trouver au sein d'un même journal des travaux différents, des angles différents, des projets éditoriaux différents. Dans un même journal papier, il est où ? Hop. Dans un même journal papier, donc c'est l'édition de jeudi dernier de Libération qui titrait sur la rencontre de Gisèle Pellicot, parce qu'ils ont interviewé Gisèle Pellicot. Vous avez une interview, vous avez un éditorial, vous avez une critique littéraire. Voilà, donc ça déjà sur la première double page de Libération, vous avez trois angles différents, trois types de papiers très différents. Édito, interview, critique. Et tout le journal est fait comme ça. Ça, c'est l'interview qui continue. Hop. Là, vous avez des éditos. Vous avez plusieurs éditos. Donc, l'édito de Thomas Legrand, évidemment, sur la politique. Un édito de Johanna Lucerne sur Philippe Candeloro. Là, vous avez un reportage. C'est encore autre chose, sur le Bangladesh. Reportage sur le Bangladesh. Là, vous avez un long article sur le procès de Marine Le Pen en appel. Ouais, c'est du reportage aussi. Là, vous avez du photo-reportage. Si on allait dénicher des photos, Libération, ils font beaucoup ça. Là, vous avez une publicité? Oh, les journaux qui font de la pub. Je déteste les journaux qui font de la pub. Hein. Vraiment, la publicité, ça nique les journaux. Hein. On n'arrive pas à lire. On sait pas quoi. Voilà, non, c'est chiant. On sait plus où donner de la tête. Et après, vous avez les Jeux Olympiques d'hiver, le reportage sportif, etc. Bref, je m'arrête là. Vous avez compris où je voulais en venir. Au sein d'un même journal, vous avez différents types de papier. Hop. Pour un scam en plus. Je n'ai pas d'opinion, je suis une table. Vous dites, mais tu es une très belle table. Bien lustrée. Je suis d'accord, mais question naïve, pourquoi il serait impossible d'uniquement relater des faits? Mais tu peux relater des faits. Mais il n'y a rien de neutre dans le travail de relater des faits. C'est pas objectif. Bientôt Thomas Legrand à Baxit. Il est déjà venu Thomas Legrand à Baxit. Le choix du langage est déjà biaisé. Oui, c'est vrai. Bonjour tout le monde, j'espère que l'ambiance morose ne vous plombe pas trop. Je vous envoie un peu de soleil auvergnat. L'ambiance est un peu plombante, hein. C'est ce que je disais en intro du stream. L'ambiance en ce moment, l'air est assez irrespirable. Il y a une très grosse manifestation d'extrême droite qui est prévue demain à Lyon, à la mémoire de Quentin Derenck. On craint des débordements d'ailleurs et des violences. Donc ouais. Elle n'a pas été interdite par le maire. Le maire n'a pas le pouvoir d'interdire une manifestation. Seul le préfet a le pouvoir de prononcer une interdiction sous le contrôle de la justice. En l'occurrence, le préfet a autorisé la manifestation et a annoncé un dispositif de sécurité renforcé. Jordan Bardella a recommandé aux cadres du Rassemblement national de ne pas se rendre au rassemblement d'hommage à Quentin Derenck, prévu samedi en raison notamment du profil des organisateurs. Ah ouais? J'avais pas suivi ça. Non, je sais pas, je réfléchis. Le RN ne souhaite pas s'associer à cette marche. De toute façon, elle en tirera de toutes les manières les fruits politiques du moment politique. Dans les communes où la police est étatisée, où c'est le préfet? Alors le préfet, c'est l'État. Le préfet, je vous rappelle que le préfet, il est élu par personne, et heureusement, il est nommé par l'État. Il représente l'État dans le territoire, dans le département en l'occurrence. C'est le préfet, pardon, qui a la main sur la police nationale et la gendarmerie. Il est nommé par le Premier ministre. Le préfet, il est nommé par décret en Conseil des ministres, ouais. Nommé par décret en Conseil des ministres. C'est des hauts fonctionnaires, c'est ce qu'on appelle le corps de la préfectorale. J'ai un copain qui est en train de passer les concours pour devenir sous-préfet. Faut que je lui demande comment ça se passe d'ailleurs. Le préfet sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Absolument, le ministre de l'Intérieur, il a la main sur l'administration préfectorale. L'administration de la police également, évidemment. Les deux sont très liés. C'est le chef de l'État qui nomme les préfets. Non, je viens de dire l'inverse. C'est le gouvernement qui nomme les préfets par décret en Conseil des ministres, décret de nomination. Pour moi, préfet, c'est forcément à Poudlard. Ça serait pas mieux que le préfet, qui a énormément de pouvoir, soit élu par le peuple? Non, bien sûr que non. Non, non, le préfet est un fonctionnaire. Le préfet, il obéit docilement à la loi. La loi qui est votée par nos élus. Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur, qui est le supérieur hiérarchique du préfet, il est responsable devant le Parlement. Elle se place là, la responsabilité politique et démocratique. Mais non, 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 le préfet... Faut pas que le préfet y soit élu, putain. Déjà qu'il doit, il doit contrecarrer des volontés politiques locales en permanence. Quel enfer s'il est lui-même issu d'un parti politique. Vous imaginez? Un préfet RN qui interdit une manifestation de gauche? Déjà que quand c'est un préfet normal, ça énerve. Mais alors, alors là, le jour où on a des préfets RN, au secours. Qui contrôle les préfets? Ils ont un contrôle hiérarchique par le ministère de l'Intérieur et ils ont un contrôle judiciaire par la justice administrative. Si vous n'êtes pas satisfait d'une décision d'un préfet, vous pouvez porter plainte contre lui devant la juridiction administrative et vous pouvez obtenir gain de cause. Ça arrive tous les jours. Que les préfectures soient déboutées en justice. Qu'est-ce que t'en penses de Yael Braun-Pivet qui déplore de ne pas pouvoir virer un préfet? J'ai trouvé ça hallucinant comme déclaration. Oui, putain, oui, bien sûr. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a déploré dans la presse ne pas pouvoir juridiquement virer un député comme Raphaël Arnaud. Et donc Yael Braun-Pivet, donc présidente de l'Assemblée nationale, qui est censée un peu être l'avocate des députés, en tout cas de la souveraineté nationale. Qui dit oh, c'est trop injuste à cause de la loi est mal faite, je peux pas virer un député, mais heureusement que je peux pas virer un député, tu te prends pour qui? Pardon, merci M. Max. Pardon, je m'énerve, mais non, tu peux pas virer un député, non? Non, non, le député il a été élu par le peuple, c'est littéralement le peuple. Donc il peut pas être viré comme ça. En fait, il faut se rendre compte de l'importance que ça revêt l'élection en démocratie. C'est le souverain, le peuple, qui a décidé de nommer un représentant. Personne ne peut lui retirer son choix. C'est sacré en démocratie, ça. Le lien qui unit l'électeur et l'élu, c'est un lien sacré. Tu peux pas le retirer comme ça parce que je sais pas qui serait pas d'accord. Il y a que trois manières pour lesquelles un député peut arrêter d'être député. Soit il crève, ça arrive. Soit il démissionne. Ben oui, il a le droit de prendre la responsabilité lui-même de mettre fin à son propre mandat. Ça, il peut. Soit le Conseil constitutionnel constate l'incompatibilité de son mandat avec une peine d'inéligibilité qui lui a été attribuée définitivement par la justice sur requête du garde des Sceaux ou du bureau de l'Assemblée nationale. C'est très précis. C'est très précis. Et on fait pas n'importe quoi. avec le mandat des députés dans une démocratie? On crée pas des règles comme ça où en fait les mecs sont élus, mais en fait, t'inquiète, on peut les dégager. Non, non, on peut pas les dégager. Merci Pokazoan, merci à toi. Est-ce que c'est déjà arrivé la troisième option? Oui, c'est déjà arrivé. Alors, je me souviens. En fait, on a un député qui est élu, ok? On a un député qui est élu et qui est condamné en justice à une peine d'inéligibilité. Ça peut arriver. Le député fait appel. L'appel est suspensif, la peine est suspendue. Il n'est pas encore condamné définitivement. Donc il fait son processus judiciaire. Il fait appel, puis il va en cassation. Et une fois que la cassation a tranché définitivement et que l'élu est bel et bien condamné à une peine d'inéligibilité, alors le bureau de l'Assemblée nationale ou le garde des Sceaux saisissent le Conseil constitutionnel et lui demandent de constater l'incompatibilité du mandat du député avec sa condamnation. Et c'est alors que le Conseil constitutionnel annonce la fin du mandat du député. Ça, c'est la procédure classique. La réalité de ce qui se passe, c'est que quand un député, c'est rare, hein, c'est déjà arrivé une fois ou deux, quand un député est condamné définitivement, il démissionne de lui-même. Voilà. En gros, le député, il attend pas sagement son humiliation. Il quitte son mandat, il se casse. Donc ça revient au même. Voilà comment ça se passe en général. Pour les sénateurs, c'est pareil? Oui. À ma connaissance, pour les sénateurs, c'est pareil, ouais. Techniquement, un député pourrait exercer en prison? Non. Non, mais c'est important parce que l'inviolabilité, c'est vrai que c'est une question qui est posée quand des députés se retrouvent à avoir une immunité parlementaire. Souvent, notre premier réflexe, c'est d'être un peu scandalisé en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire d'immunité? Oh là là, tous ces politiques qui se protègent les uns les autres. Il faut bien comprendre. Je reviens sur cette sacralité du mandat de député. C'est pas rien, un député. C'est un élu du peuple souverain. Il doit être libre de ses mouvements et surtout, il doit pouvoir venir siéger à l'Assemblée. Il est hors de question, en démocratie, qu'un député soit empêché physiquement de rentrer dans l'hémicycle pour voter, pour s'exprimer, pour amender, pour faire son travail. C'est pour ça qu'on a créé l'immunité, pour les députés. C'est pour garantir que jamais un pouvoir autoritaire ne puisse facilement, hop là, faire deux, trois gardes à vue comme ça sur deux, trois opposants politiques, de manière à se garantir la victoire d'un vote qui risquait d'être un peu serré. Vous voyez la logique qu'il y a derrière? Et c'est important de la garder à l'esprit. Parce que c'est pour ça qu'il y a une... C'est pour ça qu'il y a une... Pas une irresponsabilité, mais une protection des députés, c'est pour protéger leur possibilité d'être des députés du peuple. Comme disait JLM, la République, c'est moi. Oui, le côté tribunicien de Jean-Luc Mélenchon. Bon, sauf que Jean-Luc Mélenchon, il s'opposait à une perquisition dans son parti politique. Il a été condamné pour s'être opposé à cette perquisition, mais bref. Quid d'un député reconnu coupable d'un crime? S'il est reconnu coupable, ça veut dire que de toutes les façons, son immunité parlementaire a été levée par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, le cas échéant, je pense que. Je sais pas d'ailleurs, ce sera peut-être au Conseil constitutionnel de se prononcer. J'ai pas trop compris le principe des assistants parlementaires qui sont sous pseudonyme. Alors oui. Raphaël Arnaud a embauché un stagiaire, visiblement, il y a quelques mois, et il l'a embauché sous un pseudonyme. Pourquoi? Parce que dans les milieux antifa, qui sont des milieux exposés en termes de sécurité, les gens sont en danger, on fait très attention à ne pas révéler l'identité, à ne pas doxer les personnes. Donc, c'est pas des milieux militants dont je suis très proche, dont je connais bien le fonctionnement, mais de ce que j'ai cru comprendre, et ça me paraît logique, on se protège, on n'utilise pas son vrai nom, on utilise des pseudonymes, comme dans la résistance, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants, Jean Moulin, etc., voilà, c'était pour beaucoup évidemment des pseudonymes, pour se protéger, pour garantir sa sécurité. Et donc, là, en l'occurrence, il y a un député qui a été. Il y a un assistant parlementaire qui a été embauché en stage par Raphaël Arnaud et un pseudonyme a été utilisé pour l'embaucher. Alors, est-ce que du coup le contrat était avec un pseudonyme ou pas? J'en sais rien. Je pense que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de vérification d'identité de façon à l'Assemblée nationale. Chaban de Chaban Delmas, c'était un pseudo de résistant. Ah ouais? L'abbé Pierre aussi. Bah tu vois, je savais pas. Marine Le Pen, ouais, c'est pas son vrai prénom. S'il y a flagrance, il n'y a pas besoin de lever l'immunité. C'est ce que je me disais. Alors j'ai un doute là-dessus, sur une enquête de flagrance pour l'immunité des parlementaires. Est-ce que c'est public le nom des assistants? Oui. C'est les députés ont l'obligation de déclarer leurs collaborateurs parlementaires dans leur déclaration d'intérêt. Donc voilà. Est-ce qu'un assistant peut garder son poste après avoir commis un crime? J'en sais rien. J'en sais rien. Tu me poses une question qui n'a juste jamais obtenu de réponse de toute l'histoire de France. Je sais pas. Je sais pas. C'est jamais arrivé. Et là, à ce stade, je connais pas l'implication de l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud dans l'homicide de Quentin Derenck. Je sais pas. Faut en trouver un et lui demander d'essayer pour voir. Ouais, faut essayer. Faut faire ça, ouais. Mon collègue m'a dit qu'extrême gauche et extrême droite, de toute façon, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Bah, tu peux pas répondre grand-chose si la personne a décidé de voir le monde de cette manière-là. Voilà, si elle a pris la décision que c'était sa grille de lecture, tu vas pas trop pouvoir changer. Ce que tu peux essayer, c'est de lui montrer les cas d'absurdité dans lesquels ça peut le mener. Par exemple, renvoyer dos à dos. En fait, c'est la critique de la posture de la neutralité parfaite. J'écoute tout le monde, je donne la parole à tout le monde, etc. Ok. Est-ce qu'un pédophile et un enfant, c'est kiff-kiff? Chacun a ses raisons, chacun ses opinions. Tous les deux sont respectables. Est-ce qu'un nazi et un juif, c'est pareil? Est-ce qu'un raciste et un noir, c'est pareil? Donc ça, déjà, c'est une forme d'argumentation par l'absurde qui peut essayer de faire relativiser les choses. Ensuite, bon, bah, t'as la question de l'histoire. L'histoire de l'Europe. L'histoire de l'Europe hurle que non, ce n'est pas la même chose. Et que dans les heures les plus sombres, il faut savoir prendre position et que la neutralité n'est pas une position. C'est une défaite. La neutralité est une position. Moi, je trouve que la neutralité, c'est au contraire, c'est une facilité, puisque c'est un refus de prendre position. Ah, moi, je me tiens en dehors de la bagarre. Je ne, ah non, ah non, 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 je ne participe pas. Là encore, pardon, mais l'histoire de l'Europe nous invite quand même à nous souvenir de la lâcheté qui a été celle de tant d'hommes et de femmes qui ont choisi de ne rien faire, alors qu'ils pouvaient faire quelque chose. Bien sûr que la prise de risque est toujours à considérer, et que c'est pas facile à dire, et qu'on n'est personne pour donner des leçons. Mais. Ouais. La neutralité, non, c'est pas une position, c'est une lâcheté. Les gens qui harcèlent les streamers en les forçant à prendre position, ça pose pas question. T'aurais pu t'arrêter à les gens qui harcèlent les streamers. Ça pose pas question. Ça dégage. Ouais. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est dramatique. Ouais. Oui, bien sûr. Non, non. Le moment est difficile. Le moment est difficile. Le moment est grave. On déplore la mort d'un homme dans un contexte de résurgence de violence politique qu'on aurait préféré oublier, quoi. Les gens qui harcèlent, ouais, exactement. Être neutre, c'est être arbitre, ce n'est pas rester les bras croisés. Mais les arbitres ne restent pas les bras croisés. Les bras croisés. Les arbitres, ils arbitrent. Merci Sabine. Les arbitres, ils prennent des décisions. Ils agissent. Ils font quelque chose. Ils disent quelque chose. Ils ne restent pas neutres. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses du manque de réserve de Gérald Darmanin en tant que ministre? Mais de quelle réserve on parle? Quelle réserve des ministres? Il n'y a pas de réserve de ministres. Les ministres, ce n'est pas des fonctionnaires. Ce n'est pas des prêtres non plus. C'est des hommes et des femmes politiques. Évidemment que les ministres ne sont pas neutres. Heureusement d'ailleurs. C'est quand même des membres du gouvernement de la République. Ils portent une action, ils portent un discours, ils font quelque chose. On peut en parler, on peut en penser quelque chose, on peut voter contre, on peut. Être neutre, c'est reconnaître que l'on n'a pas la compréhension du sujet et suspendre son jugement. Bah, à ce moment-là, on dit qu'on n'a pas la compréhension du sujet et qu'on préfère suspendre son jugement. Bah, tu vois, c'est très bien de ne pas savoir. Je suis pas en train de vous dire, attention, je suis pas en train de vous dire, vous devez avoir une position sur tout. Vous devez prendre position sur tout. Vous devez avoir une grille de lecture et une seule, et vous devez vous positionner en permanence. C'est pas du tout ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir, Voilà, vous faites vos propres hiérarchies entre les sujets qui vous intéressent plus, qui vous intéressent moins, entre les choses qui vous tiennent à cœur, etc. Enfin, vivez votre vie, soyez des citoyens épanouis. Mais vous n'êtes pas neutre. Enfin, je veux dire, c'est bien de ne pas être neutre. C'est chouette de ne pas être neutre. Vous êtes des êtres humains. Vous avez un monde qui vous entoure. Vous avez une relation avec le monde qui vous entoure, que vous le vouliez ou non. Il y a des choses que vous aimez bien, des choses que vous aimez pas. Il y a des trucs qui vous dégoûtent. Il y a des trucs qui vous indignent. Il y a des trucs qui vous plaisent énormément. Il y a des gens, vous les écoutez parler, vous vous dites, c'est chouette ce qu'il dit. Vous n'êtes pas neutre. C'est bien. Je sais pas, c'est vivant. Une citoyenneté, ça se fabrique avec le temps. Ça demande à être cultivé, à être raisonné. Et ça, je vous dirais toujours que, en tout cas sur cette chaîne, c'est quand même plutôt un peu l'ambiance. On est là pour discuter, pour apprendre à se faire une opinion, etc. C'est un peu le but, quoi. Mais soyez pas neutre. Vous n'êtes pas neutre, vous ne le serez jamais. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en vous disant que la neutralité est une lâcheté. Quand l'extrême droite est au pouvoir, on ne peut pas être neutre. C'est pas possible. Être neutre, c'est... être pour l'extrême droite, c'est favoriser l'extrême droite, c'est décider de ne rien faire alors qu'il s'agirait d'agir pour lutter contre l'extrême droite. Bon, bah, après, chacun a sa conscience, hein. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens, faites ce que vous voulez. Mais bon, voilà, rester assis sur son canapé, d'autres l'ont fait avant nous. Et de vous à moi, on n'a pas envie d'être ces gens-là. Être neutre, c'est avoir son pH égal à 7. Ah, les blagues de nerd. Un abstentionniste, s'il devait voter, ne voterait pas forcément extrême droite ou gauche, on ne sait pas justement. Exactement. On ne peut pas mettre un bulletin dans la bouche d'un abstentionniste. Parce que par définition, il a décidé de garder sa bouche fermée. Ceci étant, on peut en penser quelque chose. De la même manière, on en reparlera malheureusement si on est contraint d'en revenir là, mais quelqu'un qui fait sciemment le choix de ne pas voter alors qu'il a la possibilité d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, par exemple au second tour, on peut en penser quelque chose. On ne peut pas dire « Ah bah non, il n'a pas voté. » Bah si, justement, il n'a pas voté. Il aurait pu. Il aurait dû. Il a choisi de ne pas le faire. Bah, j'espère que lui, il dort bien, avec sa conscience. Mais moi, non. Et s'il ne veut ni l'un ni l'autre, bah il aura l'extrême droite. Et il ne pourra pas s'en plaindre. J'insiste un peu là-dessus, mais décider de ne pas voter au second tour pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, c'est accepter que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et venez pas après chialer en disant « Ah non, mais j'aurais préféré que ce soit autrement. » Ouais, c'est con, t'avais l'occasion de le faire. De dire quelque chose au moment où ça comptait. Alors je sais qu'il faut pas culpabiliser les abstentionnistes, les pauvres abstentionnistes, les gentils abstentionnistes. Ils sont purs, ce sont d'humbles citoyens qui sont très en colère contre la politique. Alors il faut les comprendre, il faut les écouter, il faut se mettre à leur chevet, etc. Je sais, je suis d'accord avec l'essentiel de ce discours. C'est juste qu'il y a des moments où quand l'histoire t'appelle, décider de pas répondre, c'est une décision. C'est un choix. Perso, je ne veux pas voter contre quelqu'un, je veux voter pour. Bah ouais, mais comme on dit aux enfants, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Enfin, non, mais qu'est-ce que je te dise? Pardon, oui, il y a des moments où les configurations politiques font que on a le choix entre deux trucs qu'on préférait pas avoir le choix. Bah ouais, oui, c'est comme ça. Je suis désolé, il y a des y a un, parfois, faut grandir. voilà. T'as le choix qu'entre vanille et chocolat, il n'y a pas fraise. Bah désolé. Non, te mets pas à pleurer, c'est pas, c'est voilà, c'est comme ça, faut choisir. tu décides. Encore une fois, avant le premier tour, je veux bien. C'est toujours pareil. Avant le premier tour, on peut avoir des discussions politiques sur ce qu'on préfère, sur les stratégies, les machins et tout. Un vote de second tour, une stratégie de second tour, c'est autre chose. Et c'est autrement plus grave. C'est fini les bisbilles, c'est fini les oui, non, mais peut-être, mais un peu, mais pas beaucoup, machin et tout. Non, là, il y a un choix clair qui est posé sur la table. Il y a un risque majeur qui est là. Il y a une possibilité de l'éviter, c'est de faire ça. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais par contre, vous ne m'empêcherez pas d'en penser quelque chose. On a voté en masse aux législatives, on a un gouvernement de gauche. Mais non, mais la gauche n'a pas gagné les législatives. Tu renvoies dos à dos la vanille et le chocolat. T'es con. Personne à gauche n'est d'accord, c'est fou. Bah non, non. Encore une fois, c'est un siècle et demi d'histoire. Hein. Oui, la gauche est divisée, comme d'hab. Y a des écoles de pensée, il y a des grilles d'analyse, il y a des tendances, il y a des partis, il y a des mouvements, il y a des syndicats, il y a des. C'est vivant, la gauche. C'est très vivant. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Merci, Narniana. Merci, merci, merci. Ça fait bien longtemps que j'ai pas voté pour quelqu'un. J'ai toujours voté à chaque élection. Au pire, ça fait quasiment 1 heure de marche à pied pour aller jusqu'au bureau. Bah, ça te fait une bonne balade? Ça te fait une bonne balade? Tant mieux pour toi. Jean, tu vas à la Comeback League ce soir? Quoi? C'est quand? C'est où? J'ai été invité? Alors moi, ce soir, j'ai un truc de famille. Ah oui, c'est Obertum. C'est Obertum? J'ai un truc de famille, mais après peut-être, ouais. Ouais, c'est Obertum. Et bah, j'irai peut-être, mais j'ai d'abord un truc de famille, donc on verra. Mais merci, merci de me l'avoir rappelé, j'avais complètement zappé, je l'avais pas mis dans mon agenda. Le vote, déjà, c'est anonyme. Tu n'es pas censé savoir qui vote et pour qui il vote. Donc, tu n'as aucun avis à balancer aux gens, car tu ne sais pas. Bah, les gens qui votent à l'extrême droite, c'est des connards. Et tu vas pas réussir à m'empêcher de le dire. Tu peux essayer, hein, mais... Ouais, non, si sinon, non, si sinon, je vérifie, mais je m'en suis bien fait une opinion, hein. Ouais. Assez définitive en plus, hein, je sens que je vais pas en changer celle-là. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis prêt à changer d'avis, mais alors ça. Je te dis. Genre vanille au chocolat, toujours pareil. C'est des connards, mais est-ce que tu les comprends? Non? Non, 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 non. Non, non, non. Ah non, 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 je vais pas faire le côté compréhensif. Oui, mais c'est des gens en colère, c'est des gens pas contents, c'est des gens en rupture, c'est des gens qui veulent un changement radical vers un truc plus de... Non. Je lis des travaux de sociologues sur les dynamiques de vote de l'extrême droite pour comprendre les mécanismes profonds qui mènent des gens à voter à l'extrême droite, qui sont très nombreux, très subtils, etc. Mais j'en pense quelque chose. Tiens, vous allez pas réussir à me faire avoir une position purement analytique, objective, tiens, pour reprendre l'absurdité dont on parlait tout à l'heure, en disant je ne porte pas de jugement, je ne fais que regarder. Moi, je ne suis pas sociologue, hein. Je ne suis pas sondeur d'opinion. N'attendez pas de moi que j'ai cette posture-là. Il y en a d'autres dont c'est le métier, pas moi. Merci Elminaro. Chacun est responsable de ses choix, même si le contexte social, économique, etc. peut expliquer les opinions, chacun est responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Sur la responsabilité qu'a chaque personne vis-à-vis des choix qu'il fait. Moi, j'ai travaillé en politique, je sais ce que c'est que la responsabilité politique. Je sais ce que c'est que de se faire allumer la gueule par des électeurs déçus, par des citoyens qui sont pas contents de ce que tu fais, etc. C'est normal, tu es responsable de tes choix. Tu dois les assumer. Et parfois, tu t'en prends plein la gueule, parfois tu perds des élections, parfois les gens sont pas contents, etc. C'est ça, la démocratie, c'est comme ça que ça marche. Merci, Alcebade. Et c'est précisément parce que j'accepte pour moi le principe de responsabilité personnelle et politique que je la, que je le que je l'applique aux autres. Donc les autres aussi sont responsables. Moi, je suis responsable de ce que je fais, de ce que je vote. C'est ma responsabilité et je l'assume autant que je peux. Les autres, ils vont pas faire semblant de non. Merci Dagar. Peut-être que si vous aviez mieux à proposer, les gens ne voteraient pas à droite. Non, mais enfin, tu votes ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux, ça m'intéresse pas. Mais précisément, tu vois, c'est précisément la responsabilité est pas toujours du même côté. Tu peux pas, tu peux. C'est vraiment l'argument de. C'est à cause de la gauche, hein, si l'extrême droite elle monte. Hein. Finalement, les antifascistes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de la montée du fascisme? Hein, si vous étiez meilleur, voilà. Ah bah bravo, hein. Pas super l'antifascisme. C'est fatigant. Toujours du même côté qu'est la responsabilité. La gauche devrait proposer une alternative crédible. Mais c'est toujours, c'est la responsabilité historique de la gauche, ça a toujours été de proposer une alternative qui séduit une majorité d'électeurs. L'antifascisme à base d'insultes ne fonctionne pas, c'est étonnant. Non mais, d'accord, c'est de ma faute. Je suis responsable de la montée de l'extrême droite en France. Comme l'a dit Sonia Mabrouk, c'est de ma faute. C'est de ma faute. À force de m'y opposer, je la fais monter. Paradoxal, certes, mais c'est comme ça. Ouais. Les modérateurs, vous pouvez bannir les personnes qui font des clips malveillants. Ça, vous le savez, on en a déjà parlé. On parlait du harcèlement des streamers tout à l'heure. C'est comme reprocher à l'opposition d'être d'opposition. Oui, non, mais c'est ça. Je suis déçu que tu ne proposes pas d'alternative satisfaisante à mon fournisseur Internet. C'est ma faute si t'as une mauvaise connexion. T'as suivi l'affaire Clément? Oui, je sais, mais ça, on le sait, ça fait plusieurs mois maintenant qu'il y a des gens d'extrême droite qui se baladent sur les streams Twitch de gens identifiés à gauche, en tout cas opposés à l'extrême droite, et qui cherchent à faire des clips sorti de leur contexte pour faire le buzz sur des réseaux d'extrême droite, notamment Twitter. Et ça circule entre responsables d'extrême droite. Donc il y a des là actuellement, là, on est sous surveillance de gens d'extrême droite en permanence qui font des clips malveillants, et on le sait très bien, hein, on le sait très très bien. Moi, une fois, je m'étais mangé une crotte de nez après un stream en croyant que la caméra était éteinte. Toutes ces parties immédiatement dans des réseaux d'extrême droite, et je me suis fait harceler ensuite pendant une semaine ou deux. Après, ça s'est calmé, c'est passé à autre chose. Mais j'ai reçu un harcèlement d'extrême droite juste sur cette connerie. Et j'ai vu les fachos débarquer, ricaner là-dessus en boucle, etc. Donc. Donc voilà, ça fait partie des conditions pour streamer sur Twitch en 2026. C'est une blague ou t'es premier degré? Non, non, je suis premier degré, pardon, excuse-moi. Quand je parle de cyberharcèlement, en général, je suis assez premier degré, je vais pas te mentir. J'en ai eu ma dose en 10 ans sur Twitch. Oui, l'extrême droite surveille de très très près les streamers sur Twitch et fait des clips. Ava, elle en a été victime, évidemment. Antoine Daniel aussi à l'époque. Clément Viktorovitch, moi aussi, j'en ai été victime. Donc c'est des stratégies d'extrême droite pour faire monter la sauce. Et là, avec Clément Viktorovitch, ils ont réussi à faire passer ça à la télé. Hein. C'est allé jusqu'à Pascal Praud, un clip sorti de son contexte. Quand tu traites les gens de connards, ils ont le droit de te répondre. Mais si tu t'es senti visé de si tu t'es senti visé quand j'ai utilisé le mot connard à propos des racistes, j'en suis navré pour toi, par contre, tire-en les conclusions. Et si tu te sens pas bienvenu sur ma chaîne, c'est normal. C'est même un peu voulu. J'habite en Suède et je remarque récemment que les mouvements d'extrême droite attirent de plus en plus de jeunes, un peu comme en France. Comment expliquer ce shift? Il y a toujours eu des jeunes, il y a toujours eu des jeunes qui se sentent attirés par des mouvements d'extrême droite. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, c'est même assez ancien d'ailleurs. Des jeunes fervents, galvanisés. Merci Paola. En fait, la jeunesse n'a pas de couleur politique, contrairement à ce qu'on veut bien croire. La jeunesse a toujours été attirée par le mouvement, a toujours été attirée de son temps par les mouvements politiques les plus intenses de son moment et ceux qui résonnent le plus avec des aspirations de la jeunesse. Il se trouve que les aspirations de la jeunesse ne sont pas très éloignées de celles des personnes plus âgées. Merci Will Pietrak. Les seules fois où on a des vraies distorsions de représentativité des jeunes vis-à-vis des plus âgés, c'est lorsque les jeunes se sentent visés directement, négativement, par des personnalités politiques. Ça a été le cas, par exemple, au moment de 2007, Nicolas Sarkozy, vu qu'il a défrayé la chronique en accusant les jeunes d'être des racailles, notamment les jeunes des quartiers populaires. Beaucoup de jeunes se sont sentis visés à ce moment-là, et il y en a quand même un paquet qui ont voté pour Ségolène Royal. Pour cette raison. Merci Tong Fao. Merci Frax Dish. Il n'y a pas que des gens d'extrême droite qui te suivent, t'as aussi la droite ou du centre. C'est gentil d'oublier la gauche, parce qu'il y en a un paquet quand même, mais c'est vrai ce que tu dis. Il faut faire la différenciation quand tu t'exprimes pour éviter d'amalgamer. Je n'amalgame personne, encore une fois, je n'amalgame personne. Putain, vous ne pouvez pas demander à un antiraciste d'être compréhensif vis-à-vis du racisme. Vous ne pouvez pas, voilà, je suis désolé. Si c'est ce que vous attendez de moi, que d'être gentil, compréhensif, envers le racisme, l'antisémitisme, la misogynie, l'homophobie, etc., ça ne va pas le faire. Je ne vais pas faire ça. Je ne le serai pas. Il y a peut-être des streamers qui vous promettent ça. Allez sur leur chaîne Twitch, si vous vous sentez plus à l'aise. N'hésitez pas. Moi, je veux bien discuter de plein de trucs. Je veux bien être très ouvert d'esprit sur les analyses d'actualité politique, etc. On parle de plein de trucs. Sur l'extrême droite, sur le racisme, sur l'homophobie, sur la misogynie, non, je ne serai pas tolérant, je ne serai pas ouvert d'esprit, je ne serai pas gentil. Je vous rappelle que d'après Sonia Mabrouk, je suis un intolérant. Hein. Je suis intolérant à l'extrême droite, je suis désolé. Je suis désolé si ça vous blesse. Et si l'atmosphère est irrespirable sur cette chaîne pour vous, je vous en prie, n'hésitez pas à passer votre chemin, ça me va. Après, vous pouvez être de droite, du centre, de diagonale, je m'en fous, vous êtes ce que vous voulez. Moi, ça me va très bien. Les opinions différentes et tout, je suis très content qu'il y ait des gens différents sur cette chaîne qui discutent, etc. C'est très cool. Mais le respect de la différence a des limites. Le respect de la différence a des limites. Voilà, moi j'ai une limite, je la trace là. Faites ce que vous voulez. Il y a des règles sur le chat. Il y a des règles aussi qui sont fixées par la loi, d'ailleurs. Voilà. Donc je peux traiter de connard des gens d'extrême droite. Je vais pas m'excuser. Je vais pas chercher à amoindrir leur douleur suite à cette insulte horrible. Je vais pas rétropédaler. Je vais pas. Non, je me sens assez bien. Moi, je suis très détendu. Hein. Du coup, tu dois être tolérant envers les racistes, mais les racistes n'ont pas à être tolérants envers les autres. Non, il faut être compréhensif envers les racistes. Il faut les comprendre. C'est important. Ce qui me sidère, c'est qu'on ne réclame jamais des excuses quand l'extrême droite insulte des électeurs de gauche de bobos déconnectés ou d'assistés, oui. Oui, bah oui. Oui, moi j'en prends ma dose hein, d'insultes. Et je chouine pas. Peut-être que tu devrais chouiner. Pas mon genre. Visiblement, l'extrême droite, elle, c'est son genre. C'est des limites qu'on voit de moins en moins. Beaucoup ont perdu des repères. Bah non, mais c'est en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le paradoxe de la tolérance. Et sur la vacuité de la neutralité. Cette espèce d'idée de un streamer comme moi qui fait de la pédagogie et de la vulgarisation sur l'actualité politique, je me devrais d'être neutre, je me devrais de faire preuve d'une distance critique suffisante pour ne pas prendre parti et pour percevoir tout le monde politique avec une espèce de rapport, oui, de rapport objectif, de rapport factuel, je ne prends pas parti, etc. C'est pas vrai. Alors déjà, c'est faux, ça n'a jamais été le cas. Ça fait 10 ans que je stream sur Twitch, ça n'a jamais été le cas. Donc dites pas que ça a changé, parce que ça n'a jamais changé. Je ne suis pas comme ça, je ne peux pas être comme ça. Je suis un être humain avec deux bras, deux jambes, avec un cerveau, avec un parcours, avec un positionnement, avec une classe sociale d'origine, avec je suis le fruit de tous mes biais. Et donc, ce serait vous mentir que de vous dire que je suis neutre, apolitique ou apartisan, etc. Machin. C'est pas le cas. Et par ailleurs, le monde n'est pas neutre. L'actualité politique, le réel, l'histoire ne sont pas neutres. Il se passe des choses dans le monde. Les choses bougent. D'un point de vue politique, les choses évoluent. Et en l'occurrence, elles évoluent dans une direction particulière en France et en Europe. C'est la montée. Et l'arrivée prochaine, visiblement, au pouvoir de l'extrême droite. Et ça, je ne peux pas, quand bien même je le voudrais, je ne peux pas être neutre vis-à-vis de ça. C'est pas vrai. J'y arriverai pas. Je vais pas écouter le bruit des bottes en me disant, tiens, c'est intéressant comme son. Non, je vais pas ne pas me positionner. S'il se trouve sur Internet des gens pour vous promettre d'avoir une position plus neutre que la mienne, tant mieux pour eux. Allez-y, foncez, ça me va très bien, c'est OK. Moi, je vous dis juste quel est le menu et à quoi ça va ressembler. voilà. Et en l'occurrence, oui, je serai toujours radicalement opposé à l'extrême droite, à sa montée, à sa banalisation, à sa normalisation. Alors, une fois que j'ai dit ça ne me positionne pas quelque part en particulier, hein. Vaste champ politique dans lequel c'est le bordel, tout le monde est en désaccord avec tout le monde, c'est formidable. Mais ça me va. Certains pensent que prendre parti, c'est de la malhonnêteté. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai. Oui, t'as une perception de finalement prendre parti, c'est descendre d'un piédestal magnifique qui est celui de la neutralité. Prendre parti, c'est descendre dans la fange de l'argumentaire. Et c'est devenir malhonnête, parce qu'on ne peut être que malhonnête quand on est partisan. T'as pas peur que la gauche fragmentée ne parvienne pas à se hisser au second tour et qu'il y ait le même dilemme? Si, bien sûr. Bah, ça fait partie des circonstances de la prochaine élection présidentielle. C'est la question du poids relatif de la gauche, de sa division, de la question aussi du poids du centre. Ça, on en a déjà parlé plein de fois et on va continuer à en parler, mais l'existence d'un espace politique pour le centre fait partie des questions ouvertes. En tant qu'influenceur, les gens attendent de toi l'impartialité, j'imagine. Non. Les gens n'attendent pas moi une impartialité. Il faut bien comprendre que je suis un streamer qui a un projet éditorial de vulgarisation et de pédagogie sur l'actualité politique. C'est ça mon positionnement de base, c'est ça mon offre. Il peut y avoir des gens qui présupposent que ça implique une forme de neutralité de ma part. Et ils ont ni tort ni raison, c'est un présupposé qui n'est pas absurde. On ne me connaît pas, on ne sait pas qui je suis, on a vaguement entendu parler de moi, le mec qui fait les QAG, là, le mec qui fait Baxit, etc. Bon, premier réflexe de certaines personnes, peut-être de se dire, tiens, ce mec-là va pas prendre parti. Et certaines de ces personnes peuvent être déçues de m'entendre prendre parti contre l'extrême droite. Bon, bah c'est à moi de gérer cette déception et de leur dire que c'est pas bien grave. Ce que j'apprécie chez toi, c'est pas ta neutralité, mais ta capacité à laisser ouvert les idées dans le chat et de traiter l'actualité avec tous les partis du moment que les idées soient légales, républicaines et démocratiques. Oui, bien sûr. Merci, Zetiel. Mais je c'est moi, je ne préfère rien de mieux que les opinions divergentes des miennes. J'ai pas du tout envie que cette chaîne devienne une chaîne de cohérence idéologique où tout le chat est d'accord avec moi, où je suis d'accord avec moi, où on a bien raison d'avoir raison, et je passe mon temps à dire qu'on a bien raison d'avoir raison, et ouais, on est bien d'accord, ouais, on est bien d'accord. Voilà, ce genre de chaîne-là, ce contenu-là politique m'intéresse peu, et j'ai surtout pas envie de le produire. Moi, je préfère quand on n'est pas d'accord que dans le chat, il y a des grilles d'analyse politique sont différentes de la mienne. Merci Marcouf. Avec des gens, avec des gens qui juste voient pas les choses de la même manière que moi et tout, ben je trouve ça trop bien. Enfin, je préfère cette discussion-là. En plus, on fait de l'analyse d'actu politique. C'est chouette. Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Tout le monde est le bienvenu sauf l'extrême droite. Merci Verbalkan. Merci, merci. Non, mais les gens qui votent à l'extrême droite sont évidemment les bienvenus. Ils risquent d'être déçus par ce qu'ils entendent sur cette chaîne, c'est possible. Mais je ne garantis pas, je ne garantis pas la salubrité des propos tenus sur cette chaîne. Ça peut déplaire à l'extrême droite. Et si ça déplaît à l'extrême droite, c'est pas grave. Ça me va. Disons qu'il y a une partie du public sur laquelle je suis OK, de m'asseoir. Il y a d'autres créateurs de contenu qui ne veulent pas parler de politique de peur de fâcher une partie de leur communauté. Ils ont peur de perdre des viewers, en se disant ce serait dommage de perdre des viewers parce que machin. Bon, bah, c'est pas mon cas. Tes propos déplaisent souvent à LFI, je pense aussi. C'est pas grave. Ça me va. Ça me va. Je pense qu'à LFI, ils ont de quoi faire sur Twitch, en termes de contenu qui leur convient. Ça devrait bien se passer. Merci, Mister Gotcha. Quand est-ce qu'on fait des navions? Ce week-end! J'ai beaucoup progressé dans la campagne de Flight Simulator. Je vous en parlerai ce week-end. J'ai fait plein de vols et tout pour gagner de l'argent, machin, je vous raconterai. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? On va faire un raid. On va faire un raid chez Domingo, tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas raid Domingo. C'est à quelle heure les navions? Ce sera ce week-end. Je sais pas quand. Je sais pas à quelle heure. Ce sera demain, demain matin. Je prie pour un stream Flight Simulator ce week-end. Il y aura du Flight Simulator ce week-end, ouais. J'ai très envie de vous montrer des nouveaux avions et tout. On va faire des vols, ça va être cool. Ça va être cool. Merci les copains d'avoir été là en tout cas. Merci pour ce stream. Petite revue d'actu un petit peu improvisée. Ce week-end Flight Simulator. La semaine prochaine, n'oubliez pas Backseat le 24. Notez-le dans votre agenda. Hein. Le 24 Backseat. Ouais, ça va être bien. Allez, raid dans 30 secondes. C'est la fin de ce stream. Merci les copains d'avoir été là, c'était cool. Restez pour le raid, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.